Salut mes petits fans de 30 Seconds to Mars et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Marvel Initiative et de The DC Alternative. Les frères Maxisov sont dans la place.
Salut, salut et bonne année. Bonne année Sophia.
Bonne année. C'est la première fois qu'on fait un épisode de ce genre. C'est que d'habitude, un peu la tradition dans le podcast, c'est... on fait un film, un épisode. Mm. Un épisode par film, tout simplement. Et là, on va vous parler de deux films. Et en plus de deux films de qualité.
Ah oui.
Ouais, on retourne en 2022 pour vous parler de deux films de super-héros qu'on n'a pas encore couverts. C'est vrai qu'on...
Les deux qui nous manquaient.
Les deux qui nous manquaient. On avait vraiment tout fait cette année.
Oui.
C'est sur deux méchants, normalement.
Oui,
qui
oui,
sont transformés en anti-héros par les films. Avec des acteurs qui vraiment ont tout mis là-dedans.
Ouais.
Ont essayé vraiment d'avoir
depuis
leur propre
années,
franchise, leur propre truc. Des acteurs qui sont assez clivants. On,
oui,
peut le dire. On aime ou on n'aime pas. Hein. C'est vraiment pile ou face avec ces mecs-là. Et donc, c'est un peu le meilleur du pire de 2022. Qu'on
faire, le fond du slip aussi, quand même. Hein, parce que là...
Tu les as vus à leur sortie ?
Moi, j'ai vu Morbus en...
Ah, j'ai pas dit les films Morbus et Black Adam.
Oui, bah oui, évidemment.
C'est dans le titre, hein, ça va.
J'ai eu la chance de voir Morbus en projection presse et c'était quelque chose.
Ouais, il y a des gens qui sont partis.
Non, 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 mais c'était... C'était poli, on va dire.
Il dure combien de temps ? 1h40 hein ?
Même moins que ça, je crois que c'est 1h35.
Je crois qu'il y a un long générique.
Oui.
J'étais très étonné du fait qu'il me restait beaucoup de films.
Mais il y a deux scènes post-génériques.
Ouais, mais elles sont très rapides et ensuite il y a un très très long générique.
Mm-hmm.
Je me dis, ils ont remercié les fans ou quoi ? Genre les centaines de fans de Morbius
qui
existent dans le monde. Moi, je les découvre.
Hein. Oui, tu les as découverts aujourd'hui.
Ouais, je les ai découverts aujourd'hui. Ouais, j'ai regardé les deux d'affilée. Et ouais, c'était une expérience. Hein.
Ouais, j'imagine.
Vous savez à quel point les films de super-héros en ce moment c'est mon truc. Alors, si en plus on me donne un condensé de ce qui se fait de pire dans le monde du super-héros. Ouais.
Et j'ai quand même eu la chance de voir Morbus 3 fois pour ce podcast, hein, quand même.
Trois fois ?
Oui.
Tu l'avais revu il y a longtemps ?
Je l'ai vu pour
Parce que ça fait quand même pas mal de temps que tu nous as promis qu'on ferait Morbus.
Oui, bien sûr que je l'ai promis. Et là, on est là pour l'enregistrer et pour en parler. C'est ça qui est
On a dû attendre 2023.
Quoi. Exactement. Mais ouais, c'était. Le deuxième visionnage était encore pire, et là le troisième que j'ai fait du coup était fou.
Oh, mais là tu l'as fait en accéléré.
Bah forcément, parce que j'ai déjà vu le film et il est suffisamment court et linéaire pour qu'il n'y ait pas besoin de le revoir 10 fois. Quoi.
Bon, on va faire ça dans l'ordre de sortie. On va commencer avec Morbus.
Mm-hmm.
Donc allez, c'est parti. It's Morbing time!
It's Morbing time. Have sex, put my hands
against, put my best against, put my ten, my ten. Qu'est-ce que tu sais du perso des comics ? Toi qui es un fan de Spider-Man, tu dois être quand même assez à jour au niveau Morbus.
Bah ouais, c'est un perso qui est arrivé, c'est dans les années 70 ou 80, il me semble, fin 80. Et je peux même vérifier, je me suis renoté, mais 71, ouais, donc c'est vraiment début des années 70. Et ce qui est cool avec ce perso, c'est que de suite, ça a été présenté comme un vilain et qui introduisait aussi un petit peu tout le délire vampire qui avait déjà été un peu établi dans les comics Marvel, mais plus sporadiquement. Là, t'avais vraiment un grand personnage... qui incarnait cette thématique-là. Et ce qui est cool, c'est qu'il s'est aussi allié quand même avec Spidey. Il est vachement plus gris que beaucoup d'autres méchants. Et c'est pour ça que, justement, on est sur ce personnage-là pour en faire encore un anti-héros de plus. Ouais, et puis ce qui est cool aussi avec ce personnage-là, c'est que ça développe aussi un truc sur la science et sur le handicap. Et du coup, t'as plein de thématiques qui sont intéressantes et qui sont traitées dans le comics, mais bon, là...
C'est pas un peu tous les méchants de Spider-Man
si,
qui combinent un handicap avec la science. Je pense que je peux en nommer 2-3, là, comme ça, juste...
C'est vrai,
hein, non, c'est un truc qui revient souvent, quoi.
Il y en a un, c'est avec les lézards, l'autre, c'est avec les chauves-souris. Enfin, il y a toujours un espèce de...
Là, un truc que je me suis dit en regardant le début du film, moi qui m'en fous complètement de Morbus, je m'en rappelle de lui dans le dessin animé Spider-Man des années 90.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça que je le connais, et c'est à peu près tout ce que
je... C'est son incarnation la plus célèbre,
je
pense.
C'est tout ce que je sais de lui. Moi qui m'en foutais un petit peu des... Il y a le chat qui attaque en même temps. Je m'en foutais un petit peu de lui. En regardant le début du film, je me suis dit, tiens, c'est une origin story sur Man-Bat.
Il y avait un peu de ça.
Man-Bat.
La scène d'intro, c'est un peu ça.
Ça pourrait tout simplement être un début de... C'est le début d'un film Batman où tu vois la création du méchant au début du film. Quoi. Enfin, sauf que c'est moche et c'est un mauvais acteur et ça pue. Quoi. Enfin, on peut sentir l'odeur à travers l'écran.
C'est pas que ça pue, c'est que c'est insipide. Ça n'a même pas d'odeur.
Je crois que... Heureusement qu'on enregistre juste après. Parce que sinon, j'aurais complètement oublié.
Oui, t'aurais oublié le film.
Complètement oublié. Donc il devait apparaître dans Blade, si tu t'en souviens, on en avait parlé.
Ouais, on avait parlé dans l'épisode.
On en avait parlé. John Watts le voulait dans Far From Home, j'apprends.
Bah oui, mais...
Sûrement pas avec Jared Leto.
Non, je pense pas. Pas. Ouais, je pense pas.
Il voulait faire un film plus dark, apparemment, et au final, on lui a dit « Non, en fait, tu vas faire un petit tour d'Europe avec Spider-Man.
Ouais, allez.
Ce sera pas dark du tout.
On part en vacances, on va tourner dans des pays où c'est pas cher de tourner.
Il aura des lunettes magiques qui peuvent envoyer des roquettes sur les gens.
Des drones, des drones.
Ouais, des drones qui ont des roquettes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'un dans l'autre.
Le Sony Spider-Man Universe, c'est ça
le
son
bien nommé.
Nom. C'est
le
ça
bien
son
nommé.
Nom officiellement. C'est un univers donc Spider-Man où il n'y a pas Spider-Man. C'est quand même magnifique.
Ouais, c'est quelque chose quand même. Ils ont réussi à créer une franchise sans le personnage principal.
Donc, si vous vous demandez, c'est les Venom, c'est Morbius.
Et c'est les 3 ou 4 films qui sont en préparation derrière.
Madame Web.
Ouais.
Qui va sortir avec la nana de Fifty Shades of Grey.
Tout à fait, Dakota Johnson.
Voilà. Désolé de la réduire à ce rôle.
Ouais, elle a fait des trucs un peu mieux quand même.
Et la fille de Don Johnson.
Il y a aussi... Il
y en a un autre ?
Oui, il y a bien sûr Kraven.
Ah
mais
oui,
Aaron Tyler
comment
Johnson.
On peut oublier Kraven. avec le prochain James Bond d'après les tabloïdes dont j'y crois pas du tout.
Il y a plusieurs voix qui parlent.
J'y crois pas du tout.
Non, je pense pas non plus, mais bon.
Bonjour, bienvenue dans mon training. En fait, c'est de notre faute. On est tous allés voir Venom. Venom a fait un carton. Et ça leur a donné des idées.
Non, il était déjà en production pendant Venom. Hein. Enfin,
ils n'avaient pas le feu vert.
Bah, ils n'avaient pas le feu vert, mais Jared Leto était déjà
Jared Leto
attaché
était
au
chaud.
Projet. Il attendait un réalisateur. Enfin, tu vois,
il envoyait déjà des chauves-souris mortes aux gens et tout.
Et puis... Sony avait vraiment cette envie de vampiriser le MCU en amenant ses propres personnages et qu'ensuite il les intègre plus ou moins de force via la franchise Spider-Man dans le MCU. Et ils l'ont réussi sans le faire en fait, parce qu'ils se sont fait avoir au final, je pense.
Ils ont récupéré un acteur qui n'apparaîtra même plus.
Ouais, c'est ça.
Acteur qui en ce moment est censé être dans plein de trucs, mais qui au final n'est dans rien.
Oui, c'est un bon résumé.
D'ailleurs, en parlant de ça. Il était dans le trailer.
Oui.
Il était dans le putain de trailer, Michael Keaton, quoi. Michael Keaton, il se pointait à la fin, genre, vous allez voir, il y aura le vautour, donc il y aura un lien avec Spider-Man, on va apprendre des choses.
Et c'était, enfin, à ce moment-là, c'est là que ça a vraiment lancé le truc, parce que, je sais pas si tu te souviens aussi, mais dans cette bande-annonce, il y avait un plan de Morbius en train de marcher en tenue, je crois, de prisonnier.
Il y avait
prisonnier,
pas un
là.
Graffiti, un truc
avec un graffiti, un espèce de tag, dessin de Spider-Man sur un mur qui ressemblait un peu à celui de Rémi, un petit peu à celui de celui de la PlayStation 4.
Je crois que c'était la même pose que celui sur la jaquette de...
Mais avec plutôt le graphisme de Tobey Maguire. Ouais. Mais le plan n'est pas dans le film.
Non, ils ont viré ça.
Oui.
Sûrement un petit coup de fil de Kevin à Amy. Bon, Amy,
ça vire.
Combien de fois je dois t'appeler?
C'est la 17e fois que je te demande dans le vestiaire.
J'en ai marre maintenant.
Et puis il y a un truc aussi avec ce film, c'est quand même, on l'a attendu pendant très longtemps. Trop longtemps peut-être aussi pour lui.
Bon, je sais pas si quelqu'un l'a déjà attendu ce film à part Jared Leto.
C'est un des films qui s'est pris le plus dans la tronche le Covid, je pense, parce qu'il a été repoussé 4 fois. Il devait sortir en août 2020, au final il est sorti en fin mars 2022. Donc
c'était pas les Nouveaux Mutants qui a aussi été le plus repoussé.
Ouais, lui il avait pris cher.
Ouais,
aussi,
je crois que
c'était une dizaine de fois. Mais ça avait commencé avant le Covid,
ouais.
Donc ça avait pas aidé.
Donc Jared Leto, parlons de lui.
Pas trop quand même.
En vrai, je vous conseille notre épisode sur Suicide Squad. Oui. Je suis allé dans les détails sur la méthode Jared Leto. On avait bien décrit un petit peu sa technique.
Ses manières de faire qui sont pas
pour,
très...
Pour être, voilà, et apparemment donc, sur le tournage, il marchait vraiment avec des béquilles en dehors des scènes, etc.
Sachant qu'il a, je pense, 5 scènes dans le film où il est en béquille.
Il se l'a joué Daniel Day-Lewis.
Oui, non, mais il a toujours eu cette méthode-là sur tous ses projets et tous ses films. Il aime s'impliquer à fond dans ses rôles, parfois beaucoup trop, souvent trop, tout le temps trop, mais je pense, enfin, ça c'est mon avis, mais moi c'est pas un acteur que j'apprécie énormément non plus, et je trouve que dans ce film-là, il est à la hauteur du film, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, alors qu'il avait l'air quand même plutôt chaud, et je me disais qu'un acteur aussi impliqué peut-être amènerait un peu de petit grain de folie. Mais non, il n'y a même pas de folie dans ce film.
Bah en fait, c'est ça, je m'attendais à un truc un peu plus foufou vis-à-vis de Jared Leto, justement.
Enfin, c'est très lisse, c'est très très lisse.
Après, les derniers films qu'il nous avait offerts, il jouait toujours des personnages en couleur. Ouais. Là, c'est un mec qui fait la gueule.
Bon, le film a eu beaucoup de reshoot aussi, entre les plans des premières bandes-annonces et les dernières bandes-annonces. Le film n'avait plus grand-chose à voir.
Ils ont gardé la scène où il y a Venom, Où il y a une référence à Venom.
Oui, tout à fait.
Ils l'ont gardée ?
Ouais, elle est dans le
film. Je m'en rappelle plus. Tu vois, ça commence.
Mais elle n'est pas dite de la même manière, en fait. Enfin, okay. Le plan est coupé avant ou après. Enfin, il y a une manière de dire qui fait que ça sonne pas du tout pareil que dans la bande-annonce.
Il y a une grosse influence pour le réel au niveau des effets spéciaux.
Ah, je savais que tu allais la voir, celle-là.
C'est Pokémon. Alors qu'il faudra qu'il soit un peu plus... Est-ce que c'est l'animé Pokémon ? Est-ce que c'est les jeux Pokémon ?
Je pense qu'on est
Est-ce que c'est Pokémon Go ?
je sais pas la pertinence de cette déclaration
Donc
qu'il a faite.
Donc en gros,
si
le nuage de fumée quand
pas,
il se déplace, etc., les couleurs et tout, quand ils se battent...
Il y a une volonté, en tout cas, de faire un truc visuel.
Ça te fait penser à Pokémon.
Bah, moi non, mais...
Bah écoute, pourquoi pas ? Voilà. Le film vient de remonter dans mon estime.
Grâce à Pokémon.
Voilà, il vient de placer au-dessus de Black Adam, tu vois, voilà. La peine. On verra comment ça va se passer pour le reste de... Pour l'instant, c'est Venom premier, Black Adam deuxième. Box office de 83 millions, il dépense.
T'as dit Venom, par contre, c'est Morbius.
Ah, c'est Morbius, non. Ouais, bref. Ils se ressemblent tous pour moi.
Oui.
Un budget de 83 millions, ces films ne coûtent pas grand-chose. Hein. Il faut
c'est
quand même
hors marketing, apparemment. Hein, donc ouais. C'est quand même la com' en plus.
Mais... Il coûte pas cher comparé à ce que le MCU sort.
Comparé à Black Adam.
On est loin des 250 que le MCU peut sortir régulièrement comme ça. Ou même Black Adam, qui a un plus gros budget.
Très conséquent même. Budget très conséquent, Black Adam.
Alors que là, en fait, c'est ça leur but. Hein, c'est de faire des petits films qui pourraient au moins tripler, quadrupler leur
faire des coups de
poker
en capitalisant sur la franchise Spider-Man. Hein, c'est aussi simple que ça. Et sur justement... tout ce que ça peut amener aux spectateurs qui vont justement être friands de tout ce qu'il peut y avoir comme easter egg par rapport à l'univers principal qu'est le MCU.
Mais il y a un sens avec Venom quand même, parce que Venom, c'est un personnage très important de l'univers Spidey.
Ah bah oui.
Morbius, Madame Web, ok, c'est des personnages. Madame Web est plus importante que Morbius, je trouve, personnellement.
Oui, je pense aussi.
Mais... ils ont besoin de Spider-Man pour exister, ces personnages. Ils peuvent pas exister petit peu comme ça.
Tout le paradoxe de cet univers. Hein, de toute façon.
Autant Venom, tu peux créer un truc, tu te dis, bon, allez, c'est Tom Hardy qui est en relation gay avec un symbiote. Il se gueule dessus toute la journée.
Ouais. Relation conflictuelle, mais relation amoureuse quand même.
Tu fais ça pendant deux films.
C'est ça.
Voilà, t'as un concept. Morbius, ton concept, c'est un petit peu, c'est banal en fait, il n'y a rien de spécial au niveau.
Ah oui, non, mais c'est un.
Il n'y a rien de mémorable.
Le film aurait pu être réalisé en 2004 ou 2005.
Exactement.
Si t'enlèves un peu la qualité des effets spéciaux.
Il y aurait plus de vannes,
meilleur.
Je pense. Allez.
Mais il y a quelques vannes dans le film en plus, hein. Mais elles tombent à plat ou alors elles sont.
Ouais, c'est...
Mais il y a quand même quelques vannes.
Oui, les vannes, elles sont nulles, complètement nulles.
Ça.
et dans le film d'après aussi.
Ouais, elles sont plus attachantes. Parce que t'as le personnage de The Rock qui l'est dit, et si t'as mis un peu le personnage, ça passe mieux.
Mais c'est des trucs déjà vus aussi.
Mais c'est des trucs que t'as déjà vus 100 fois, donc les blagues, elles sont pas intéressantes. Oui, ça, c'est clair.
Et au box-office, ça a fait 167 millions.
Ouais, c'est un gros.
Malgré la ressortie du film.
Le film est ressorti, évidemment.
À cause des mèmes.
Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on s'arrête là-dessus quelques secondes.
Attends, j'ai juste une question.
Oui.
Pourquoi, qui sont les gens derrière Sony ? Qui sont-ils ? Qu'ils ne comprennent jamais ? Ils ne comprennent pas le sarcasme, ils ne comprennent pas l'ironie, ils ne comprennent pas le second degré, ils ne comprennent rien à tout ça. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est « Ah, on parle du film, donc on va le faire. » On va le ressortir. C'est
très curieux, leur manière de faire. Hein. On est à un niveau... Enfin, en fait, ce qui est bizarre avec Sony, c'est aussi paradoxal que leur manière de produire des films, je trouve. Parce que c'est un studio qui est capable d'avoir du coup dans ses branches des studios d'animation qui sont capables de sortir Spider-Verse et à côté de sortir le monde des emojis, tu vois. La même année, estampillé sous le même truc. Enfin, tu te dis, il y a un truc bizarre dans leur manière de faire.
Ouais, c'est vrai quand même, parce que emojis, c'est quand même bien supérieur.
Bah oui, enfin, ça avec plus de gueule, quoi.
Voilà, le caca emoji, c'était Patrick Stewart qui faisait la voix quand même. Hein.
C'est vrai.
C'était le professeur X. Hein.
Je savais pas ça.
Oui. Donc il y avait quoi comme mème ?
Bah, en fait, c'est parti d'une espèce de...
Le Matt Smith qui danse, là,
c'était ça ? Bah, t'avais forcément le Matt Smith qui danse, et après, t'avais en fait une espèce de légende qui s'est propagée sur It's Morbing Time, qui est du coup une espèce de transformation de It's Morphing Time des Power Rangers. Et du coup, ça s'est transformé en truc. Mais c'était plus intéressant que le film, en fait, presque. Enfin, c'était plus marrant que le film lui-même. Enfin, c'était plus divertissant que le film, tout court.
Je me rappelle d'un tweet où il y avait quelqu'un qui avait tweeté « Ouais, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma voiture, qui a ouvert par effraction ma voiture, et il y avait deux places de Venom, ils m'en ont laissé 10. » C'est mieux en anglais, je crois, cette blague.
Oui, oui, non, mais c'était vraiment...
C'est comme It's Morphing Time, c'est un peu mieux si tu comprends que c'est Morphing Time. Quoi.
C'était vraiment très, très drôle. Et le truc, c'est que c'est arrivé à un moment où le film avait déjà quand même eu sa petite vie en salle. Et sa vie avait l'air d'être courte, parce que très déjà, courte. On est dans un cycle maintenant, depuis le Covid, où les films restent très peu de temps en salle parce qu'il y a du monde au portillon. Mmh. Et là, il a réussi à avoir une nouvelle sortie juste sur cette espèce de hype.
Et ça n'a rien ramené du tout.
Ah non, ça n'a pas fonctionné. Non, même aux États-Unis, c'était des chiffres qui étaient insignifiants. Et déjà, le film n'a pas rapporté beaucoup. Et il est ric-rac, quoi. Donc, c'est...
Non, mais les execs, quand même, qui se réunissent. Hey, les gars, on parle de notre film. Sent bien. On s'en fout, on le ressort. Ouais, allez, c'est parti.
Bah, ils capitalisent dessus. Hein, c'est assez cupide, mais c'est... comme ça que ça marche à Hollywood, j'ai l'impression.
Nous sommes au Costa Rica et Jared Leto débarque avec les mêmes béquilles que Jimmy dans South Park pour attraper des chauves-souris. Ça suffit, cette haine des chauves-souris dans les médias.
C'est vrai, ça.
Hein, les chauves-souris, elles mangent des fruits. Elles sont gentilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Ouais, non, mais je suis d'accord.
Ça suffit un peu, quand même. Dès le début du film, je me suis dit... J'ai l'impression que ce film va rien raconter. Il n'a rien à raconter. C'est juste un truc, un petit twist sur les vampires, on va dire. Une sorte de. Ouais. Sauf que les vampires, entre nous, c'est un des trucs qui a été le plus fait. Encore plus dans notre siècle, depuis qu'il y a eu Twilight, Buffy et compagnie. Je veux dire, les vampires, c'est bon.
Il y a
bon,
eu des
quoi.
Séries qui ont été vraiment.
Voilà, il y a What We Do in the Shadows en ce moment qui déconstruit complètement le mythe.
Ouais,
voilà. Là, on a un film de vampires où je crois que tu n'as quasiment pas le droit de dire sang. Qu'il n'y a pas de sang.
Mmh. Ouais, il prend du sang bleu.
Ouais, il boit du sang artificiel. Il n'y a pas l'horreur qu'il devrait y avoir derrière un film de vampire.
Ouais, non, mais il manque ce frisson ou ce petit truc qui déjà te rendrait le personnage un peu plus effrayant, parce qu'au final, là, tu le trouves juste impuissant face à son sort, et au final, il essaye d'un peu de s'en sortir, mais il est un peu pathétique, mais il n'est pas intéressant. Enfin, c'est triste. Ce personnage de Morbus, c'est très triste. Hein. Enfin, c'est... Il n'y a pas grand-chose à raconter dessus. Quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de ce personnage-là, Milo est presque plus intéressant, je trouve. Tu vois,
ouais, parce que c'est peut-être aussi parce que Matt Smith a un certain capital sympathie dans ce genre de rôle.
Ouais, enfin, il sait aussi cabotiner.
Il cabotine, non, mais il le fait. Mais c'est un spécialiste, c'est Doctor Who, je veux dire.
Comme un grand luron.
Il sait cabotiner. Ouais. Mais au moins, tu sens qu'il s'amuse un petit peu.
Mais ce qui est marrant avec ces scènes à lui, c'est qu'il y a un changement de ton à certains moments dans le film, quand il apparaît dans certaines scènes, et le film, t'as l'impression que c'est plus le même. Enfin, il twiste vraiment juste avec son jeu, et ça apporte un truc assez bizarre. Enfin, t'as l'impression que il y a un souci avec les scènes avec Matt Smith et Jared Leto, je trouve. Je sais pas ce que...
Ah, mais de toute façon, mais même la relation entre les personnages est très étrange. Hein.
Oui, bon, c'est...
Il se rencontre, il lui donne son nom.
Il lui nettoie ça, il lui répare sa perfusion. Et...
Non, mais je veux dire, ouais... Pff. Ouais, déjà ça. Parce qu'on voit là, on voit l'enfance de Jared Leto 25 ans plus tôt. Il est bien sûr brillant, il sait jouer aux échecs, il sait réparer des objets que même la plupart des adultes ne savent pas réparer. Il a fini son doctorat à 19 ans. On sait que Jared Leto, il a voulu montrer que ce personnage est intelligent.
À tel point qu'il refuse un prix Nobel.
Il refuse un prix Nobel, voilà, il est cool, quoi. Tu vois, en plus, il est cool, quoi. Voilà. J'y crois pas du tout.
Bah non.
Désolé. Jésus, Jared Leto, qui a sa petite île privée où il ramène des adolescentes, là. Moi, j'y crois pas à ce mec-là. C'est à certains personnages qui croient pas à leur intelligence, en fait. J'ai du mal à me dire qu'un mec aussi égocentrique que Jared Leto soit capable, ne serait-ce que de se poser sur une chaise et de se dire je vais jouer aux échecs sans envoyer de ramors à quelqu'un, tu vois.
Non, et puis même avec un personnage comme ça, tu peux mettre plein de questionnements en avant sur l'immortalité, sur la technologie aussi, sur la science, tu vois, genre sur plein... Il y a des trucs qui sont un peu abordés dans le film, mais c'est tellement en surface, enfin, il y a rien qui est creusé.
Non, on a les labos classiques de tous les films de super-héros ont les mêmes labos depuis 99, t'as l'impression. C'est vrai, hein. Je crois que c'est depuis X-Men.
Ouais, il y a un peu de ça.
Depuis X-Men, tous les labos se ressemblent.
Je revois la scène avec Jean Grey
et
Wolverine. Ouais.
Non, mais c'est ça, ils se ressemblent tous. Encore ce connard, Bryan Singer.
Bon, après, un truc pour la défense du film, il a quand même été écrit par les mecs qui ont fait Gods of Egypt et Dracula Untold. Donc ils ont déjà fait un film de vampire et des films de qualité. Donc, quand même.
Donc il a une maladie chelou. Est-ce que tu peux me l'expliquer, là, comme ça ?
C'est une maladie du sang orpheline incurable qui fait que, petit à petit, il va mourir, en fait. Enfin, son corps ne se régénère pas suffisamment vite et du coup, il périclite à petit feu.
Et donc, il a besoin de sang.
C'est ça. Et du coup, là, il a besoin d'avoir des perfusions de sang pour être réalimenté parce que lui, il n'en produit pas assez. Et là, avec les chauves-souris, du coup, il arrive à créer le remède qui manquait pour... parce qu'il était déjà en train de faire des recherches là-dessus et en testant directement sur lui, il fait avancer les recherches beaucoup plus.
Il y a un concept à faire, il y a moyen de faire un bon truc avec ça.
Mais bien sûr, c'est ce que je disais, il y a un questionnement technologique.
T'en fais un film d'horreur, tu vois, un vrai film d'horreur. Parce que là, à chaque fois qu'il tue des gars, c'est les méchants militaires pendant tout le film. À chaque fois qu'il tue quelqu'un, c'est un méchant militaire qui avait fait un truc con.
Ou alors il frappe sa copine, quoi. Mais il le fait pas exprès parce qu'il est, il est pas en contrôle de ce qu'il est.
C'est ce que Jared Leto dira un jour, vous allez voir.
Je te laisse tes paroles.
Donc son meilleur ami, c'est Milo. Matt Smith continue ses choix de mauvais films. Hein.
Ouais, c'est curieux quand même. Hein, parce
il,
que
pas, il, a pas,
il est capable de très grandes choses.
Il a trouvé House of the Dragon parce que.
C'est un peu ce qui
est The Crown aussi, en fait. Il est bien à la télé, il est très bien, mais.
Depuis longtemps, en plus.
Dès qu'il sort de la télé, à chaque fois, c'est. Ou alors, il fait son blockbuster pour se faire un petit chèque, tu vois. Ce serait pas étonnant non plus.
Et il avait joué dans. C'était pas dans Terminator c'est ça, hein, Genesis ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça.
C'était celui-là.
Genesis.
Ouais, non, mais il doit y avoir ça.
Il y avait deux Targaryens dans ce film.
C'est vrai. Non, mais il y a peut-être un côté, parce que je sais que c'est un mec qui aime bien aussi le théâtre, je crois, et à mon avis, il y a peut-être un côté, ouais, tu te fais un peu de pognon facile pour ensuite partir sur des projets qui t'intéressent plus. Hein. T'en as beaucoup qui fonctionnent comme ça à Hollywood, et beaucoup de Britanniques aussi, donc ça ne me surprendrait pas. Quoi.
Imagine, tu connais un mec qui s'appelle Dr Morbius. Il y a les noms dans les films de super-héros, quand même, faut arrêter au bout d'un moment. Quoi.
Bah, soit ils sont trop banals, soit ils sont vraiment trop... obvious.
Moi, je trouve qu'un Peter Parker, un Clark Kent, un Bruce Wayne, ça fonctionne largement mieux qu'un Edward Nygma ou il y a qui d'autre, Doctor Strange, je veux dire quand même, voilà, Doctor Strange.
Doctor Fate, c'est pas mieux.
Doctor Fate, c'est pas mieux non plus, quoi. Donc, il teste une cure sur lui-même et devient un vampire. Forcément, il y a un mec avec un flingue qui arrive pile poil à ce moment-là. Genre, sans aucune raison. Il y a un mec avec un flingue qui rentre, il y a même pas de raison aucune pour qu'il rentre dans la pièce. Il vient et il montre que c'est un connard avec la fille, là.
Le docteur,
ouais. Avec le docteur, ouais. Ouais, il lui dit quoi déjà ? T'es une nurse ou un truc comme ça, je crois ?
Ouais, une petite infirmière.
Ouais, t'es une infirmière, un truc comme ça. Et donc, tu te dis, ah, lui, il faut qu'il meure. Et donc, forcément, c'est le premier mec qui va tuer. Enfin, tu sens que le film, à chaque fois que Jared Leto va tuer quelqu'un dans le film, il lui donne une excuse.
Et il y a même tout un twist que moi, je trouve assez ouf dans ce film. C'est que des gens... que Morbius pense avoir tué, mais au final pas tué par lui dans le film. Du coup, au final, il a quasiment tué personne, si ce n'est des mecs armés dans un bateau. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment un truc, c'est assez ouf, hein, parce que c'est Milo qui a tué la nana, tu sais, dans l'espèce de long couloir et tout ça, et tous les meurtres qu'il pense avoir fait et pour lesquels, bah, limite, il se rend, il dit qu'il sait pas, enfin, il comprend pas comment ça s'est passé, mais il pense que c'est lui. Et au final, c'est pas lui qui l'a fait. Enfin, genre. Le personnage est encore plus vide. Enfin, genre, il y a même pas des. Enfin, c'est.
Il y a plus de conséquences dans Twilight.
Ah bah oui, clairement, il y a 5 films au moins.
Non, mais même dans Twilight, il y a jamais de conséquences. Il y a un moment où ils reviennent, où ils nous montrent que c'était tout un rêve, toute la scène qu'on venait de voir.
Ah oui, je connais cette.
Mais une série comme Buffy part du concept. Par exemple, tu prends Angel. On lui remet son âme. C'était un vampire horrible qui a tué des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Et on lui jette un sort et on lui rend son âme. Donc ça veut dire que d'un seul coup, il ressent toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Donc pendant des siècles, il passe son temps à manger du rat. Il est tout maigre. En fait, il vit plus, quoi. C'est devenu un clochard, tu vois. Là, ils ont fait un vrai truc avec le concept du gentil vampire qui veut essayer de se rattraper. Ouais. Le mot vampire est dit qu'une fois. C'est quand il parle des chauves-souris pour dire que c'est des chauves-souris vampires. Si
ouais, je crois que c'est ça. Je pense que...
Il y a Tyrese dans le film.
Oui, il y a Tyrese.
Il est sérieux.
Et en plus, c'est presque les meilleurs personnages du film, moi, je trouve. Hein. Ouais. Ce petit duo de flics, moi, je le trouve exceptionnel. Hein. Franchement, niveau fond du saut du body guys.
C'est vrai. Attends, je suis en train de rigoler du fait qu'il y a un mec qui rentre avec un flingue sans raison dans la pièce juste pour pouvoir se faire tuer. ce film est... Wouh.
Est-ce que tu as vu le nom du bateau?
Le nom du bateau, c'est le Stanley, bien sûr.
Non.
Et là, Excelsior.
Je l'ai pas noté, je l'ai oublié, mais c'est en rapport avec le bouquin de Dracula. Enfin,
Ok.
Je crois que c'est le nom du bateau dans lequel
il arrive. Il est ramené,
Monroe, ouais. Ou quelque chose comme ça, peut-être.
Ah, je n'ai
plus le nom en tête. Mais c'est le nom du bateau sur lequel il fait son expérience quand même, pour te dire à quel point on te tamponne quand même le truc in your face.
L'effet qu'il laisse derrière lui quand il se téléporte et il va vite.
Il se déplace, hein, il se téléporte pas, il est vraiment.
Ouais, on dirait un petit peu. L'effet était largement mieux quand c'était Nightcrawler dans X-Men 2 en 2000, 2001.
2001, ouais, 2002, voilà. Ouais, un truc comme ça.
Là, j'avais l'impression de voir la même chose avec un peu plus d'effet. Et en plus, il y a du bullet time, mais dégueu. Il y a un bullet time à un moment.
Ils sont très curieux, ces bullet time, parce qu'ils durent très peu de temps. Ils reprennent et ça sera...
Ah non, mais il est tellement moche.
Ah, c'est vilain. Hein. Dans le métro et tout, là, il y a des trucs, c'est cata. Hein.
Et là, les deux films qu'on se tape, il y a des ralentis, mais...
C'est vrai que les deux films se battent en duel là-dessus.
La moitié du film, c'est un ralenti. Quoi.
Mais t'en as un qui est un peu en héritage de Zack Snyder, et t'en as un autre qui est bien plus chaotique dans sa manière de faire, quand même.
Tiens, bon, on va parler beaucoup de Bryan Singer. Ça va être le troisième film de Bryan Singer dont on va parler parce qu'ils refont la scène d'Usual Suspects quand il boite et il se remet à marcher.
Ah bah oui, bien sûr. Ah non, mais
donc des gros hommages à Bryan Singer dans ce film, pourquoi pas.
Tout est tamponné, vraiment. Ouais. C'est...
Ah, mais dans le film d'après, c'est encore pire.
Ouais, mais c'est, pour moi, c'est un peu la même démarche que...
Non, c'est au niveau de la musique, je trouve, que dans ce film d'après, c'est vraiment...
Oui, clairement.
C'est pas vraiment expliqué pourquoi Milo devient un connard du jour au lendemain.
Je crois qu'il y a, une espèce de jalousie à la base par rapport à.
Il sait tout faire.
Non, par rapport au docteur en fait, qui s'occupe, qui au final est plus intéressé par Morbius que par Milo en fait, et du coup il y a cette espèce de rapport à la figure paternelle, l'un préfère l'autre, et du coup rivalité avec Morbius, même si ils ont l'air d'être assez proches et d'être vraiment potes, tu sens qu'il y a quand même une rivalité qui se construit parce que les deux sont très intelligents et enfin forcément se confrontent un peu.
Oui, mais les scènes sont tellement rapides.
Ah bah oui, non mais...
T'as pas vraiment le temps de les découvrir, les personnages, en fait. Même le flashback au début du film qui te raconte toute l'histoire, ça te le raconte tellement condensé que t'as l'impression qu'ils ont passé une nuit à être potes, en fait. Ils ont passé une journée à être potes, quoi. Tu vois, y a pas eu de temps qui est passé. T'as pas cette impression, en fait. Il y a le Daily Bugle, donc...
Oui, qu'on voit dans le bus, tout à fait.
Ouais.
Toute cette scène où... il arrive à discuter avec ça. Avec le docteur Martin, qui est quand même au passage un personnage des comics vraiment qui est très, très lié au personnage et qui est même sa compagne, quoi, en fonction où son assistante.
Elle devient pas une sorte de Morbiusette, hein.
Ah, bah, de toute façon, la fin du film le montre, donc.
Ouais, c'est vrai.
Ça se finit même là-dessus, je crois.
C'est drôle parce que les deux films se terminent par des gros clichés.
Ouais.
Il y a les yeux qui s'ouvrent. Ça a combien? Twilight l'a fait. Tu vois, genre les yeux qui s'ouvrent comme ça.
Pas Daredevil qui l'a fait.
Et ça se finit comme ça. Et dans Black Adam, c'est « Mais c'est quoi ton nom ?» Et il se tourne vers la caméra et là, il y a marqué « Black Adam ». Tu vois, genre le titre du film qui apparaît à l'écran. Là, on a eu les deux. Mais on dirait des films d'une autre époque. On dirait... en fait, il y a un film que j'adore qui s'appelle « Walk Hard », qui est une parodie de biopic... musicaux, les films comme Ray, comme Walk the Line, comme Bohemian Rhapsody. Et en fait, ce film a tellement parodié ces films-là que les films d'après n'ont plus d'excuses pour faire les mêmes erreurs.
Et pourtant, ils font les mêmes.
Et ils continuent à les faire. C'est-à-dire que tu vois Elvis, c'est pareil. Enfin, Elvis est encore un peu plus dans un autre délire, mais il y a quand même des moments, des petits moments où c'est genre Elvis doit se souvenir de toute sa vie avant que le film commence. Tu vois, genre, c'est un peu ça. Et je vous le conseille d'ailleurs, ce film Walk Hard, c'est un film génial.
Il est très très cool. Ouais.
Et en fait, voilà, on a eu un MCU qui est un peu méta sur les bords par moment. Bah là, on l'a vu par exemple avec le dernier épisode de She-Hulk ou ce genre de truc. Le MCU est beaucoup plus méta C'est-à-dire qu'il a plus tendance à dire ah c'est vrai qu'on faisait beaucoup le laser dans le ciel ou
des non mais ouais voilà ils ont pas enfin les personnages ont parfois conscience plus ou moins qu'ils sont dans un truc voilà assez particulier et en plus de ça dans l'écriture des histoires on te fait comprendre que bah c'est comment l'expliquer c'est toujours compliqué d'expliquer le méta
méta c'est une œuvre qui se référence
ouais c'est ça
fait une référence à elle-même en fait quoi.
Et en fait, elle le fait aussi à travers d'autres œuvres pour se référencer. Enfin, c'est
non, mais c'est surtout dans le Marvel. C'est surtout dans le sens où Marvel fait un peu toujours les mêmes films. On est d'accord, tout avec une couche de peinture un peu différente suivant le réalisateur qui va le faire. Tu vois, genre Waititi ou Coogler ou Gunn. Gunn enfin, ouais. Voilà. Mm. Mais pour les films qui sont un peu des origin story, on a un peu toujours le même.
Carcan, ouais, t'as voilà. Une espèce de socle commun où t'as une case à cocher, des petits...
Voilà. Mais en même temps, ils vont pas te faire le cliché du comment tu s'appelles. Enfin, au contraire, ils feraient une blague là-dessus, en fait. Oui. Ils désamorcent tout le temps Marvel, ce
oui,
genre de truc.
Ils détournent le truc.
Donc, le personnage qui ouvre les yeux, comme Elektra dans Daredevil, par exemple, mm-hmm. C'est plus, il doit y en avoir tellement des films ouais. Où il y a le personnage qui ouvre les yeux comme ça.
Catwoman, je suis sûr qu'il y a un plan comme ça.
Marvel désamorce ces moments-là. Donc quand on les voit de nos jours, enfin là on était en 2022, à regarder ces films et à se dire « Ah, mais il y a eu Marvel depuis ouais. !» Tu peux plus le faire sérieusement, ce genre de truc. Ça pourrait être une sorte de blague qu'ils font à la fin d'un... Bah, The Boys a eu lieu depuis, mais par bon, exemple. C'est vrai que plus, je pense, en plus, encore ouais. Pire que le MCU, il y a eu The ouais, Boys depuis. Clair. The Boys pourrait faire un milliard de blagues sur ce genre de scène. Ouais, Gemma Smith qui danse. Je ne vois pas trop pourquoi cette scène qui est assez courte a autant enflammé...
Bah parce que c'est peut-être le seul moment un peu foufou du film, ouais. Je pense. Hein. Je pense que c'est vraiment...
C'est le homard du Venom qui mange des homards.
Ouais, mais ouais, la scène a été beaucoup comparée à ça, c'est vrai. Et il y a ce moment où tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, il y a un acteur qui part en roue libre dans une scène. Ça dure...
Très rapidement hein.
ça dure très peu de temps, mais pendant très peu de temps, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est le film il change complètement, tu sais pas où t'es, ce qui s'est passé avant, enfin genre c'est...
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans Madame Web.
Je sais pas, mais c'est très curieux leur manière de faire.
Il y a quand même un moment où il y a une demi-heure qui passe et il ne s'est rien passé dans le film.
Bah en fait, c'est toute une partie où il est recherché par la police, il se fait attraper, ensuite il s'enfuit. Et après, c'est une traque constante et une rencontre de personnages. Enfin, il n'y a pas de but précis dans le film, si ce n'est aider Morbius à comprendre qui il est.
Voilà. En fait, c'est un film qui, dans un monde où on laisse un auteur s'exprimer ou quoi que ce soit de ce genre, il n'y aurait pas une scène d'action toutes les 10 minutes. Il n'y aurait pas le climax avec le personnage qui se bat contre son ombre, qui se bat contre la version méchante de lui-même.
C'est l'article que j'avais écrit sur le post pour le film, parlait de ça, justement.
Voilà, ça aussi, c'est un truc qu'on voit encore un milliard de fois et que ça suffit, quoi. Mmh. Dans le film d'après, ça, c'est pas pareil. Il se transforme en sorte de bête à cornes, mais disons que c'est...
Ça, on va en parler parce que c'est très problématique.
C'est les mêmes pouvoirs, mais du feu au lieu de l'électricité, en fait. C'est un peu le même concept. Mmh.
Non, mais c'est dommage parce que... Et ça va être la même problématique, et je suis sûr que si on fait l'épisode dessus, on dira exactement les mêmes choses. C'est qu'un film Kraven sans Spider-Man, ça n'a pas d'intérêt.
Là, c'est vraiment le pire de tous. Venom et Kraven, c'est les pires, quoi.
Ne lisez seulement la dernière chasse de Kraven et tu comprends à quel point les personnages sont liés et à quel point l'un n'est, enfin ils sont dans un ils sont entremêlés, enfin c'est ça fait partie de l'histoire de l'un qui est l'autre, enfin genre c'est ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas ces films et encore Venom arrive à s'en sortir limite mais là tu sens que le film tourne en rond et tu veux faire quoi, un Morbius 2 derrière
Kraven,
c'est quoi l'idée?
J'annonce. Ça va se finir sur Aaron Taylor Johnson, avec un accent russe, bien sûr.
Mm-hmm. Mm. Il a l'habitude, après.
Il regarde, il prend le Daily Bugle et il fait « Je crois que je me suis trouvé une nouvelle marque. »
Une nouvelle proie.
Tintintin. On voit jamais Spider-Man, parce que bien sûr, ils n'ont pas les droits de montrer en entier. Tu vois. Il y a une photo de Tom Holland, c'est qui sourit.
Non, mais il sera dans Secret Wars avec tous les autres, dans leur film de 2025 Avengers, où tu vas avoir des personnages de partout qui vont se battre les uns avec les autres. Enfin, ça va être n'importe quoi. Oh là
là. J'espère que je serai à la retraite d'ici.
Sur une autre planète.
Les visages vampires, c'est quand même super moche. Hein. Celui de Matt Smith est vraiment horrible.
Alors, je suis d'accord avec toi, mais par contre, pour avoir vu des photos des maquilleurs qui ont bossé sur le film, les maquillages et les ajouts qui ont été faits étaient vraiment super stylés. Et le rendu numérique, quand ils font bouger les trucs, enfin, je sais pas, ça ne marche plus du tout. Enfin,
c'est une bouillie.
Et puis, ils ont jamais la même tronche. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Enfin,
ouais, j'ai l'impression qu'ils ont aussi beaucoup plus mis dans le budget du visage de Jared Leto que celui de Matt Smith.
Bah, on le voit toujours plus ou moins de loin quand il est en vampire ou alors sur des plans courts. Enfin, et puis, ouais, ce truc du double identique, là, c'est...
Ouais, et puis bon, bah, Milo, il tue le père et il tue la copine de Jared Leto. Il y a un combat entre les deux, c'est très très moche.
Ah oui, non, mais de toute façon, le film fait 1h30, donc au final, il est condensé tellement. Enfin, c'est... Mais le film, tu peux le raconter comme on l'a fait, enfin, sans aucun problème, et t'as rien loupé.
Et le film d'après, il y a énormément de combats et de blabla qu'au final, tu peux aussi en passer énormément et raconter l'histoire quand même dans Black Adam.
Oui, je suis d'accord, mais Black Adam, t'envoies tellement d'effets spéciaux à la tronche que l'histoire, on s'en fout, tu vois. Genre, c'est vraiment, allez, vas-y, regarde ton truc, divertis-toi. Enfin, c'est pas la même démarche. Et puis le film a une autre histoire aussi, quoi. Là, tu sens que c'est vachement plus artificiel quand même sur Morbius.
Il y a les chauves-souris. Qui font Batman Begins.
Oui, à la fin du film, oui.
Ouais. Il fait un Kamehameha. Ok.
Non, mais ça c'est...
Et voilà.
et ce qui est triste, c'est de se dire que ce film, je sais pas si ce film n'a pas juste été fait au final pour les deux scènes post-génériques qu'il y a derrière et qui au final n'ont servi à rien.
Ouais, je sais pas.
C'est... Parce que tout le film a été vendu sur les scènes post-génériques, pas sur le film. Enfin, le film, c'est...
Je pense que c'est une obligation contractuelle de la part de tous les gens impliqués dans l'opération.
Tu crois ?
Ouais, ils avaient tous un film sur leur contrat qu'il fallait faire pour pouvoir toucher un petit bonus.
De toute façon, Michael Keaton, il fonctionne que comme ça maintenant.
Ah bah oui, Keaton, lui.
Il s'est fait sucrer certains en plus.
Alors, parlons de lui justement, puisqu'il apparaît... D'ailleurs, la fin du film est bizarre. Hein.
Ouais, ça a été...
Le film est fini et je fais « Hein ?»
Ça a été complètement...
Il n'y avait pas de fin. Enfin,
il n'y a pas de fin, il s'envole dans les airs et c'est fini.
Oui, mais c'est même pas de manière épique avec une musique ou un truc comme ça, genre « Je reviendrai » ou un truc comme
discours,
ça.
Un petit discours.
Ouais, non, que dalle. C'est... Fin.
Non, mais ça a été totalement retravaillé au montage. Enfin, tu sens qu'il y a quand même un... Il y a des trucs qui ont été enlevés dans ce film, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas comment l'histoire peut être aussi simple, linéaire et basique comme on a pu en voir des centaines déjà. Et comme on l'a dit plein de fois, le film, enfin, il est sorti il y a 15 ans, c'est pas choquant, quoi. Là, c'est plat, enfin, tout est gris, tout est moche. Enfin, il y a rien qui te... Même visuellement, tu vois, qui t'attirait un petit peu avec une ambiance plus sombre, bah, tu vois, un peu comme peut le faire Batman, il fait tout le temps nuit, il pleut, machin, enfin... C'est classique, tu vois, mais déjà, t'instaures une ambiance.
C'est là qu'il faut aller rêter d'art, hein, dans ce genre de film. Hein. Tu peux pas faire un...
Bah, il était interdit moins de 13 ans aux États-Unis.
Voilà. Tu peux pas faire un PG-13. Ouais. Non. Ouais.
Tu ramènes pas assez d'argent avec ça.
Donc la post-cred, c'est le vautour qui se retrouve dans le monde de Morbius à cause de No Way Home.
Tout à fait.
Ok. Alors... No Way Home, on est d'accord que le sort... Ça a ramené tous les gens qui savent qui est Peter Parker dans l'univers de Peter Parker.
Ouais.
Voilà, de ce Peter Parker, en l'occurrence, de celui de Tom Holland. Donc le sort n'est pas fait pour renvoyer des gens qui connaissent Peter Parker dans l'univers du MCU en dehors, dans un univers qui n'a rien à voir et qui n'a pas de Spider-Man.
Tout à fait, mon cher Sofiane.
J'ai bien compris.
Ah, t'as très bien compris.
Ok. Ensuite, deuxième post-cred. Le vautour débarque avec ses ailes. On voit même pas le visage de Michael Keaton. Il est pas du tout dans la scène. Il a juste donné sa voix. Il a touché son chèque. Il a littéralement tourné qu'une scène et elle est dans le trailer. Bien joué, mec. Ton agent, franchement, faut remercier ton agent. Donc, le vautour débarque avec ses ailes. Alors que dans la scène d'avant, on le voit en prison, habillé normal.
Oui, il est en tenue de prisonnier. Il passe d'une prison à l'autre. Il change de tenue de prison, mais c'est tout.
C'est des ailes qu'il a eues grâce à la technologie Stark.
Tout à fait, mon cher Sofiane.
Du premier Avengers.
Oui.
Bon. Ok, non, ouais, bah ça va, ça tient debout. Ça tient debout, je trouve. Ouais, non, non, il y a. Ouais. j'aimerais bien que s'il y a une personne que j'aimerais inviter en dehors de Zack Snyder,
c'est Daniel Espinosa.
C'est Amy Pascal.
Ah oui, bah oui.
Amy Pascal, j'ai
interview énorme... exclusive.
On parle tout le temps de Kevin Feige et tout, mais Amy Pascal, franchement, c'est une légende, hein, Amy Pascal. Elle est là depuis.
Elle est là depuis très longtemps. Elle est sur les Spidey, elle est là.
Fin... Elle est là tout le temps. Donc Amy Pascal très.
Les Spidey de Tobey Maguire évidemment.
Ouais, c'est ça, depuis Tobey Maguire.
Ah bah oui. Puis même avant, elle était déjà dans l'industrie, donc.
Donc voilà.
Merci Morbius.
T'as pensé quoi de Morbius ?
Ah, c'est. C'était à la hauteur de mes espérances, c'est-à-dire rien du tout. Et, et ça a fonctionné comme ça. Hein. Moi, je l'ai vu avant même qu'il sorte, je te jure. Je savais pas quoi. Enfin, c'était triste, mais je savais pas quoi dire dessus. Quoi. Enfin, c'était...
Je me rappelle que tu as insisté pour qu'on fasse un épisode dessus.
Oui, bah sur le moment, oui. Parce
et maintenant,
que...
t'es content, hein t'es
non,
content
je suis plus content avec le recul parce que je l'ai vu 3 fois, du coup.
Voilà.
2 fois et demi, voilà. Allez. Non, c'est... Déjà, cet univers, moi, m'agace et me déprime. Je préfère parler de Black Adam, qui est vraiment...
Ouais, mais Venom 3.
Un film malade.
Ils ont annoncé Venom 3.
Ouais, je crois que ça a été annoncé.
Ouais, j'espère, hein. Attends.
Oui, oui.
Et ça va se battre contre qui, cette fois? Ah, j'ai une idée.
Vas-y.
À la fin de Kraven.
Ok.
Il ouvre le Daily Bugle et il voit Venom.
Ah bah oui.
Voilà.
En vrai, ça paraît si simple.
Bah oui, et c'est ça le méchant du 3. C'est un sorte de... Enfin, ils ont leur crossover, tu vois.
Et du coup, est-ce qu'au final, Venom ne serait pas le Spider-Man de l'univers?
Ah oui. Bah ouais.
Ouais, c'est vraiment...
Ils vont faire une sorte d'Avengers à la fin.
Ils vont se battre contre qui?
Je sais pas. J'y ai pas pensé maintenant que tu le dis. Merde, bah, il y aura tous les anciens méchants.
Il y a pas de gentils, c'est les méchants. Donc
Il y aura Carnage, il y aura...
Contre les flics.
Il y aura Carnage, il y aura Riz Ahmed.
Ça serait génial.
Il y aura en vrai, tous les symbiotes, en fait.
Ça, je veux bien voir.
Un gros symbiote géant.
Oh non. Avec des têtes de partout.
T'as la scène finale, ou le climax. Donc voilà. Bon, bah, Morbius, c'est fait. Hein. Ça y est, vous êtes contents, on a fait Morbius.
Moi, je suis très content, quand même.
Vous pouvez arrêter, maintenant. Puisque là, on va passer à un bien meilleur film. Non, je déconne. On va passer à Black Adam.
Mais Black Adam, je trouve, est plus intéressant dans le fond. Pas dans la forme. Hein, dans le... Mais si, dans ce qu'il y a tout autour du film. Pas le film en lui-même, hein, mais tout ce qu'il y a autour.
Pardon.
Non, mais il y a la descente aux enfers d'un studio, de Dwayne Johnson. Enfin, il y a vraiment plein de trucs dans ce film, quand même. Enfin, c'est assez fou.
Tu penses quoi du perso, avant de commencer ?
Moi, j'avoue que Shazam, déjà de base, c'est pas, j'en ai déjà parlé dans l'épisode, c'est pas un personnage que j'ai toujours été attaché. Enfin, genre,
non, mais lui, c'était un peu le perso cool, justement. De...
Ouais, mais enfin, Black Adam, moi, il m'a jamais intéressé. Là où, par exemple, j'ai toujours préféré un personnage comme Namor, qui venait des eaux, et c'est un univers qui m'intéressait plus que Black Adam, qui est juste... une espèce de némésis, tu vois. Moi, ça, il m'a jamais trop parlé, ce personnage. Et c'est vrai que depuis que The Rock a prévu, enfin, en tout cas depuis 2007, hein, je crois que c'est, ça date de cette époque-là, qui veut ce rôle et qu'il a vraiment envie de le porter à l'écran, j'avais un petit intérêt pour le film de me dire, ouais, peut-être qu'un mec comme ça peut l'incarner si vraiment c'est son perso, tu sais, un peu comme Nicolas Cage, j'ai eu des espèces de lubies pour des personnages ou des espèces d'envies comme ça. Mais bon, quand tu vois le résultat, c'est... Faut te regarder Jumanji, quoi.
Tu penses quoi de The Rock ?
J'aime beaucoup The Rock en tant que catcheur, parce que j'ai beaucoup suivi le catch, donc j'aimais bien ça, et je l'aimais beaucoup. En tant qu'acteur, c'est quelqu'un de sympathique, mais le problème, c'est que quand tu regardes les films qui doivent dater maintenant de 2012-2013, genre Voyage au centre de la Terre, des espèces de films comme ça d'aventure un peu bof qui sortait.
Tous ces films sont dans la jungle.
Qui sortait à l'époque, oui, non, mais ça forcément. Mais quand tu regardes ceux d'aujourd'hui, bah, tu l'as pas trop vu évoluer dans son jeu. Il a fait un ou deux films qui sortent un petit peu du lot où il s'est vraiment donné, mais sinon, c'est toujours la même formule. Et là, ça dérange pas la règle. Et c'est un The Rock en pilote automatique qui est presque moins intéressant, ce que je disais, qu'un film comme Jumanji où je trouve qu'au final, il. T'as l'impression qu'il s'éclate plus que dans celui-là, quoi.
Ça joue pas sur les formes, les forces de The Rock, ce film.
Non.
C'est-à-dire qu'il parle pas beaucoup, il fait la gueule.
Ah oui, non, mais.
Alors que The Rock, ce qui est. On peut un peu tous être d'accord pour dire que c'est un mec qui a l'air sympathique.
Ouais, ouais, voilà. Clairement, bah, il a un capital sympathie. Voilà. Donc...
Après, c'est une marque, hein, The Rock, maintenant. C'est,
oui,
c'est
un peu trop.
C'est largement plus que. Puis voilà. T'as vu son corps quand il était catcheur et maintenant ?
Bien sûr, ouais.
Je pense qu'il doit y avoir pas mal de stéroïdes aussi.
Je pense, oui. Contrairement à Hugh Jackman qui a dit qu'il n'en avait pas pris pour son rôle.
Hugh Jackman, il prend des veines surtout, c'est ça qu'il prend. Et ouais, donc lui, c'était son petit projet qu'il voulait vraiment absolument faire.
À chaque fois que le projet est remonté dans les médias à Hollywood et qu'on a annoncé que c'était de retour en production ou en tout cas en pré-production, en travail, à chaque fois c'était The Rock. Et le film, je crois, 2006, ça commence à en parler. 2007, c'est The Rock. Ça revient en 2014, de suite, c'est The Rock. Et The Rock est toujours été attaché au projet. Il l'a toujours défendu. Et il a toujours dit que ça allait être son film, quoi. Enfin, c'est vraiment... il voulait que ça soit lui, hein, à tel point qu'il s'est fait virer de partout, quoi. Donc,
c'est assez étrange parce que on sait que bah, c'est ce qu'on voit dans le film, ils essaient d'en faire un héros au final du personnage.
Oui, bah, c'est le héros d'une nation, quoi. C'est,
ouais, voilà. Avec ses... Comme Black Panther, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout avec ce qu'on connaît du personnage, qui est quand même. Enfin, moi, je me souviens de lui dans le dessin animé Justice League. Il y a lui dans Injustice aussi, où il est plutôt présent, si je me rappelle bien. Mais c'est vrai que c'est pas un personnage que je connais énormément. Je sais juste qu'il est badass, qu'il est capable de se battre en un contre un contre Superman. Oui, enfin, de ce genre de détails, quoi. Mais je sais surtout que c'est pas un anti-héros. C'est beaucoup plus un méchant...
charismatique.
Tu vois, par exemple, Magneto, tu l'appelles pas un anti-héros.
Non, mais c'est un méchant charismatique.
C'est un méchant charismatique.
Fascinant, j'ai presque envie de dire.
Qui a une cause, etc. Ouais, il se bat pour une cause, mais ça reste un méchant. Tu vois,
oui, clairement. Killmonger
n'est pas un anti-héros. Alors que là, ce qu'ils essaient de faire avec Black Adam, c'est un anti-héros.
Oui.
Et ça fonctionne pas.
Non, ça fonctionne pas. Et puis, c'est...
On a déjà Shazam en plus, hein, qui a exactement les mêmes pouvoirs et tout.
Et je trouve le film Shazam vachement plus sympathique à regarder que Black Adam,
Shazam,
qui est dans une surenchère visuelle qui est fatigante très très vite.
Les effets spéciaux sont largement meilleurs que dans le MCU.
Les effets spéciaux sont pas moches, hein.
Largement meilleurs que dans le MCU.
C'est pas horrible. Il y a d'ailleurs, moi, je trouve que les effets spéciaux, notamment sur le personnage de Cyclone, qui est un personnage que j'aime bien, sont plutôt cool et ça change un petit peu visuellement, ça apporte un peu de couleur. C'est pas tout le temps les trucs un peu gris, un peu bleu, un peu.
Et il y a plus
mauve.
De couleurs que dans Morbius. Hein,
ah oui, clairement, bah, rien qu'avec Dr. Fate, ça pète de jaune. Hein.
Morbius, c'est tout est de nuit presque.
Ouais, c'est film, soit c'est bleu, violet, orangé, mais c'est très des teintes très saturées, donc c'est pas visuellement accrocheur. Là c'est vrai que ça pète un peu plus, voire un peu trop, mais bon.
Je trouve que comparé à Thor Love and Thunder, par exemple, au niveau des effets spéciaux, ne serait-ce que ce soit l'incrustation sur les fonds verts et les trucs comme ça, est largement meilleur dans Black Adam que dans...
Pas forcément d'accord, pour moi ça se vaut un peu. Hein. On est quand même sur un niveau...
Enfin, j'ai trouvé, ou peut-être... Bon, j'étais sur ma grande télé.
Il y a quelques effets, je suis d'accord, avec Atom Smasher et tout, en grand, qui valent largement ce qu'ils ont fait sur Ant-Man, voire un peu mieux sur certaines scènes.
Je pense que le MCU devrait surtout changer de boîte d'effets spéciaux. Quoi. Je crois que c'est prévu, d'ailleurs.
Ils font là leur... Ils ont créé leur propre boîte.
Ouais, parce que... Enfin, là, tu vois quand même un peu mieux... Il faut le dire, quand il y a des bonnes choses quand même, et je trouve qu'au niveau des effets spéciaux...
Non, c'est vraiment pas un truc critiquable dans le film, je suis d'accord là-dessus. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment... Ça tartine, hein. Il y en a beaucoup.
Ah oui, ça c'est un problème. Il y en a... Excuse-moi, mais ça ressemble à un film de Zack Snyder, mais avec plus de couleurs, non?
T'as les oranges qui sont pas saturées, quoi.
Au niveau de l'action, je veux dire. Au niveau de l'action, ça ressemble beaucoup... Enfin, on sent que c'est le cahier des charges d'ici de l'époque Snyder, quoi.
C'est pas le cahier des charges.
Il y a beaucoup de ralentis, beaucoup de...
Mais il y a quelques touches qui rappellent quand même l'identité un peu dans laquelle se situe ce personnage-là, parce qu'il avait envie de l'ancrer par rapport à Henry Cavill, point barre. C'est juste ça, parce que c'était son plan, en fait. Je sais pas si t'as entendu parler un peu de tout ce qui est sorti, mais c'était son plan. Il voulait...
Mais je veux dire, tu vois, les moments où Black Adam a des éclairs au ralenti qui tuent tout le monde, il y a quand même beaucoup de ralentis à la Snyder. Je pense que Snyder le fait mieux parce que c'est son truc.
C'est esthétisé à la Snyder.
Mais ça ressemble un petit peu avec plus de couleurs. C'est ça que je pense. En fait, voilà, tu mélanges Black Adam et Morbius et t'as un film de Zack Snyder. Non, je déconne. M'envoyez pas de menaces de mort, s'il vous plaît. Un budget de 260 millions.
Ouais.
Là, c'est déjà un peu plus gros. Pour un box-office de 393 millions.
Est-ce que t'as entendu...
Quel bide.
Est-ce qu'on parle un peu des faux chiffres balancés par The Rock?
Je t'en prie.
Donc, t'as suivi un peu, toi, l'affaire où,
Ouais, il disait, ouais, on est le meilleur film de super-héros de l'année, des trucs.
Parce qu'en fait, à la base, le truc, ce qui s'est passé, c'est que il y a un article de Comics Blog, d'ailleurs, qui le raconte très bien, et je conseille à tout le monde d'aller le lire si vous voulez vous intéresser un peu à ça. Mais en gros, à la base, le film, ils l'ont annoncé autour de 185 millions, et quand les premiers chiffres sont sortis, c'était pas très très bon. Du coup, visiblement, Dwayne Johnson aurait fait passer des faux chiffres, donc un peu gonflés, à certains titres de presse qui les ont sortis. Et en fait, bah, y a plein de médias qui se sont rendus compte que ça allait pas, et ils se sont rendus compte qu'en fait, avec les reshoots, on arrivait à un budget total de 260 millions. Et c'est ça qui fait qu'en fait, le film a vraiment bidé, parce que là, il est même pas rentable. Enfin, il est quasiment plus en salle actuellement. Mais, enfin non, il est plus du tout en salle.
Il y a Avatar qui est sorti.
En plus, il y a Avatar qui est sorti, il y a Black Panther qui est sorti juste après. Ouais. Donc c'est très compliqué pour le film. Et ce qui s'est passé juste après, c'est qu'il y a eu tout le changement de... Enfin, la nouvelle direction de DC Studio, enfin, ce qu'ils appellent DC Studio
James
maintenant.
James Gunn qui est en charge maintenant.
Et en fait, avant James Gunn, ce qui est raconté, c'est que The Rock serait allé voir les pontes de la Warner, en plus qui venait d'être acheté, pour leur proposer de prendre plus ou moins la tête de ce truc-là avec des gens avec qui il a l'habitude de collaborer, et lui serait un petit peu le Kevin Feige de DC Studio. Et ses projets, du coup, c'était notamment un nouveau film Superman, donc un projet sur plusieurs années centré autour de Black Adam, du coup, et par Black Adam t'arriverais sur d'autres personnages comme l'a fait un peu le MCU en partant d'Iron Man, et pour arriver à une confrontation
Superman Black Adam,
voilà. Et c'était un petit peu son pinacle sur quelques années, du coup, d'essayer de faire un plan avec des films qui suivent. Et en fait, le truc, c'est qu'il s'est un peu pointé en passant devant tout le monde et sans trop de permission. Il est arrivé tout en haut, il a balancé son truc et ça n'a pas trop plu. Et le côté un peu star ingérable, star qui fait ce qu'elle veut et qui veut tout contrôler, ça leur a pas trop plu dans leur manière de faire un nouveau... une nouvelle formule, en fait, pour un peu copier Marvel, mais à leur manière. Mais en gardant un petit peu le socle de ce qu'a fait la force de Marvel Studios, c'est-à-dire une certaine rigueur autour de la communication, autour de la gestion des acteurs et de leur communication aussi, parce que à la base, Robert Downey Jr. était un peu... quand ils l'ont récupéré, c'était pas le meilleur moment de sa carrière, n'empêche qu'après, il a toujours été impeccable et tout, et tu te retrouves avec là un modèle où de suite, ton acteur principal, il veut un peu tout gérer, tout faire. Du coup, ça leur a pas plu, et ils se sont tournés vers James Gunn, et ils l'ont complètement écarté, et James Gunn lui a annoncé que il y aurait plus de film Black Adam avec lui, quoi. Enfin, genre, c'est fini, quoi.
Il lui a manqué un truc dans son pitch. C'est de parler de Batman. Si tu viens pas voir DC en disant Batman, 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 Joker, Batman, Joker, Joker, Batman, là, ça les intéresse. Il y a que comme ça que ça les intéresse. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il a un peu cru que son star power allait lui ouvrir toutes les portes à ce niveau-là. Sauf que on parle de Black Adam, je veux dire.
C'est vrai que quand c'était sorti au début des années 2000, du coup, il y a eu un vrai engouement autour de The Rock en Black Adam. Il y avait une vraie représentation avec un acteur qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin en tout cas en termes d'origine ou des choses comme ça. Et petit à petit, en fait, le projet a tellement duré que les gens s'en sont fatigués. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui sont passés avant, comme pour Morbius, en fait, c'est la même chose. Les films d'équipe comme ça, on les a déjà vus, et là le but, c'est d'arrêter le héros tout le film, donc c'est pas non plus très intéressant, sachant que c'est un anti-héros.
On a l'impression de voir deux films différents par moment, c'est un peu étrange.
Oui, c'est vrai que la Justice Society of America est...
team-up movie avec comme tu dis, la Justice Society, et en même temps, t'es dans un film soi-disant un peu épique avec Black Adam. Les deux mondes ne fonctionnent pas.
Moi, tu m'aurais vendu un film Black Adam un peu plus sur un truc un peu introspectif.
Shazam, déjà, qu'on mette Shazam dedans.
Je suis même pas sûr que t'aies besoin de Shazam, en fait, tout de suite, parce que tu peux déjà t'intéresser aux origines de Black Adam. Elles sont pas trop mal racontées dans le film, même si c'est pas, ils ont pas besoin d'adapter texto les BD. Mais le truc, c'est que, je sais pas, il y a quand même...
Non, mais tu sens que The Rock avait honte de Shazam. The Rock n'avait aucune envie.
Ça, c'est vrai.
Il voulait être contre Superman. Ouais. Il veut pas se battre contre Shazam.
D'ailleurs, il arrive à ramener Henry Cavill dans son propre film, alors que dans le film Shazam, t'as le corps de Superman arrêté au niveau de la tête parce que t'as pas Henry Cavill. Enfin, il y a quand même un truc qui montre que.
T'as vu qu'il y a des trucs qui sont sortis un petit peu sur Cavill.
Oui, par rapport à bah, justement.
Par rapport à The Witcher, en fait, qui s'est fait virer parce qu'il était très compliqué. Très compliqué à gérer, apparemment, qui passait sa vie à jouer aux jeux vidéo. Il voulait pas aller faire son, il voulait pas aller sur le tournage parce qu'il était en train de jouer aux jeux vidéo.
Parce que moi, ce que j'ai pu lire aussi, c'est que.
C'est peut-être pour ça que Gunn.
Il s'est séparé de son agent il y a très peu de temps. Et quasiment au moment où, en fait, où The Rock a un peu fait capoter son retour, parce que son retour était plus ou moins annoncé en Superman, tu vois, il l'a annoncé.
Ouais,
et
il
tout.
Était annoncé.
Et en fait. Le move de The Rock en allant voir le studio comme ça aurait plus ou moins petit à petit au final fait capoter le truc et donc son retour, donc son éviction de The Witcher parce qu'il avait annoncé qu'il quittait la série.
Apparemment, il s'est fait virer. Ouais.
Bah, il se serait fait virer, ouais. Donc ça, il y a aussi un truc là-dessus. Et en plus de ça, ce que j'ai cru comprendre, c'est que son ex-agente, du coup, c'était aussi l'ex-femme de The Rock. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc assez...
Ah, ok.
Il y a un lien, je sais pas si
ça,
c'est...
Ça, c'est le genre de truc qui arrive que dans le football, non.
Mais il y a quand même des... Il y a une histoire, en tout cas, là-dedans, qui est particulière, et c'est un film qui a eu très longue gestation et qui accouche d'un truc pas ouf, quoi. C'est ça qui est dommage.
C'est triste un peu pour Cavill, hein, quand même.
Oui, moi, je suis plus triste pour Cavill que pour Dwayne Johnson. Parce
bon, après,
que je sais
ils ont des bonnes raisons, mais j'aurais quand même bien aimé voir...
Moi, ça m'attriste surtout de voir que la dernière version de Superman d'Henry Cavill, ce sera celle-là. Enfin, genre...
Ouais, ça, je m'en fous.
Bah, ouais, moi, c'est un peu triste parce que j'aurais bien aimé qu'il ait vraiment un retour à la lumière, tu vois. Je sais pas, un truc un peu...
Non, il faut se souvenir des bonnes choses. Voilà. C'est-à-dire Man of Steel non, Superman non plus, Justice League.
Non, mais en termes d'incarnation de personnage, il est quand même intéressant. Enfin, tu vois, genre. C'est...
Non, mais j'ai rien contre Kevin.
Mais je sais bien que t'as rien contre lui.
On a le droit à une backstory avec un gamin qui sait pas jouer, qui raconte tout de l'Égypte ancienne, mais en fait c'est pas vraiment l'Égypte. Où il y a les méchants qui tuent son père pour une histoire d'Eternium.
Très beau résumé.
Dès que j'ai vu Eternium, j'ai fait ah ok. Ouais.
Atchoum, tes souhaits.
Avatar quoi. Ouais.
Oui c'est vrai qu'il y a un petit peu ça.
Donc il est doté de super pouvoirs par les gars de Shazam et il se retransforme pas en gamin.
Non.
C'est là que je me suis dit, ah, il se retransforme pas en gamin, c'est bizarre. Et en fait, dans le film, ils expliquent après.
Il y a un twist dans le film.
Voilà. Et je me disais, est-ce qu'il va dire Shazam dans le film ? Et il dit Shazam, donc au moins, ils ont quand même osé ça.
Ouais.
Ils ont dû, à mon avis, super...
Il ramène quand même Jimon Su pour faire le sorcier, comme dans le film de Shazam. Il y a quand même un petit truc qui te montre que c'est lié. Mais le truc, c'est que même les deux il y a deux films qui sortent quasiment en même temps. Il y a Shazam 2... censé sortir bientôt, hein, je sais pas quand, mais...
Oui, c'est vrai que c'est...
Censé sortir bientôt, hein, y a eu des bandes annonces et tout, mais bon. Et les deux films sont sortis en même temps, enfin, pas en même
temps.
J'ai
un bon souvenir de Shazam.
Mais moi aussi, un film un peu familial, un peu...
Ouais, mais ça fait pas de mal de temps en temps.
Non, mais un truc un peu smooth, un peu gentil, et qui peut se regarder assez facilement sans qu'il y ait trop...
C'est comme les Ant-Man, quoi.
Ouais, le premier Ant-Man joue un peu là-dessus, mais je préfère Ant-Man quand même à Shazam. Mais... pas pour les mêmes raisons.
Et là, il y a une scène avec un gamin qui fait du skate, avec une musique toute pourrie. Et il a ses comics d'ici qui tombent quand il tombe. Et j'ai
encore un film très méta. Hein.
Et j'ai juste noté, je l'aime pas lui.
Ah, il a quand même une scène de course-poursuite assez fabuleuse dans des escaliers où il fait du skateboard dès qu'il peut en faire et qui n'a absolument aucun sens.
Fabuleux. En fait, là encore, en voyant cette scène. Je me suis demandé si on était bien à notre époque, en fait. Parce que la scène du gamin qui esquive les gens en skateboard... Non, mais je veux dire, c'est un truc... Combien de fois, ça, là encore, ça arrive tout le temps dans les films. Mais plus maintenant. Le skateboard, en plus, ça fait très années 90, début 2000. C'est un truc vraiment de cette époque-là, où on jouait tous à Tony Hawk sur la PlayStation.
Bah, à tel point que c'est... comment il s'appelle le pote de Seth Rogen qui a sorti un film autour du skateboard qui s'appelle Mid 90, tu vois, c'est pour te dire à quel point...
Ah, je sais pas quel pote.
Si, c'est celui qui joue dans le Loup de Wall Street.
Jonah Hill.
Jonah Hill, merci. Qui a écrit et réalisé un film autour du skateboard qui se passe au milieu des années 90. Donc c'est vraiment très marqué quand même.
Ouais, et en fait, même la musique, c'était très rock. Et
il y a beaucoup de riffs de guitare.
Pas vraiment moderne.
C'est vrai que quand tu vois la recherche musicale que tu peux avoir pour des films qui sont sortis la même année, on va dire tu vois, The Batman et Black Panther, il y a une recherche musicale qui est quand même autre que là, cette espèce de condensé de trucs.
Même le thème de Black Adam, Adam est.
Bah, non, mais c'est...
Il est chiant, il est répétitif.
Il est pauvre, enfin, il est pas. Pas marquant, pas. Enfin, il est. Non, c'est clair et net.
Putain, on parle de musique dans le podcast. Donc, ça s'appelle Kandak. Ou Kandak. Ou Kan Et c'est désormais contrôlé par des mercenaires d'Intergang.
Intergang, incroyable. Syndicat du crime dans les comics d'ici.
Intergang.
Intergang. Ça vaut dommage contrôle hein, quand même.
Donc ils exploitent les ressources locales, ils imposent une dictature aux habitants. Il y a une histoire de couronne magique.
Mais ce qui est dommage avec ce film, c'est que là, tu vois, tu plantes le décor un peu géopolitique, parce qu'il y a quand même un peu de géopolitique dans ce film.
Mais c'est encore une fois pas un vrai pays, quoi.
C'est pas un vrai pays, mais disons que ça aurait pu être une espèce de représentation fictive d'un pays du Moyen-Orient, comme tu peux avoir une représentation d'un pays d'Afrique dans Black Panther, tu vois. Donc, jouer ce truc-là, ça peut fonctionner. Le truc, c'est que là, en fait, t'as un espèce de contexte autour de nations étrangères qui contrôleraient, du coup, un pays au Moyen-Orient, ce qui est quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même un passif, hein, ça existait, ça existe encore. Et enfin, ça existe plus trop, mais disons que ça a existé. Et ils en font rien du tout. Rien du tout, du tout. Le film essaye même pas de mettre ce truc-là en avant pour te montrer à quel point, par exemple, ces personnages-là sont pas des bonnes personnes, mais même pas. Enfin, c'est juste des nobody en combi du SWAT et puis point barre, quoi. Enfin, ça s'arrête là.
C'est bien, c'est que pour une fois, il n'y a pas les.
C'est vrai, c'est vrai. Ça.
C'est plutôt sympa. Mm. En plus, Sarah Chahi, l'actrice qui joue Adriana, si je ne me trompe pas, elle est d'origine iranienne.
Ouais. Il y a un petit effort de fait là-dessus.
Voilà, elle jouait dans Les Sopranos. Elle est très jolie.
Quel geek.
Je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Je crois que c'était sur Discord. C'était avec Luc, je pense. Je parlais de ça sur Discord. En fait, un des gros problèmes que DC a pour certains personnages, c'est que c'est pas ancré dans le monde réel. Par exemple, Spider-Man est à New York, Iron Man est à Los Angeles. Enfin, tu vois, tu peux un peu. Bon, ils sont tous à New York, on va pas s'en dire. Mais...
Il y en a beaucoup là. Sinon, beaucoup. C'est San Francisco.
Il y en a quand même beaucoup. Il y a San Francisco. Voilà, enfin. Le problème, c'est que ça fonctionne dans des films solo. Par exemple, Gotham City, dans son propre monde, ça fonctionne très bien, mais d'un seul coup, si tu veux le mettre dans... Prends le Gotham City qu'on voit dans The Batman et tu vas essayer de le mettre dans le monde de Black Adam, ça ne fonctionne pas, quoi. Tu vois, il y a un truc qui ne va pas.
Oui, il y a une dissonance, ouais.
Voilà. Pareil, Metropolis, c'est censé être une magnifique ville,
pleine de
lumière, pleine de buildings, genre New York, mais en vraiment riche et propre. Tu peux pas le mettre de l'autre côté du pont de Gotham City, quoi. Tu vois, ça ne fonctionne pas. Alors que voilà, Marvel peut au moins se dire on fait ça dans le monde réel, la dernière bataille ce sera à Londres, nous on sait où c'est, etc. C'est une bonne chose, par exemple pour Wonder Woman qui est Temiscira, qui est Krypton pour Clark Kent, qui est quand même le droit de chaque personnage et le droit à
et
son
sa
propre
localité,
univers.
Ouais.
Mais en fait c'est quand tu les mets ensemble que ça ne fonctionne moins. Parce qu'au moins, les personnages du MCU ont ce fil conducteur d'être dans le même monde, un monde que nous, on connaît. Tu vois.
Mais ça, pour moi, tu vois, c'est aussi vieux que Marvel et DC. C'est Marvel fait des personnages qui essayent d'être proches du lecteur, là où DC écrit des personnages sur des personnages divins, enfin, en tout cas, des figures divines.
Ouais.
Donc, forcément, le rapport est très différent et c'est pas du tout la même approche.
Et c'est pour ça que, de mon point de vue, et j'espère que James Gunn va faire ça, il devrait faire des films solo sur chacun des personnages et se concentrer sur leur comme ils font avec The Batman.
Mais c'est pas ce dont ils ont envie, c'est ça le problème, parce que ça ils vont continuer de le faire, tu vois. Il y a des films, il y a des projets qui sont plus ou moins isolés.
Tu as celui de
Joker, celui de Matt Reeves. T'as deux gros projets sur l'univers Batman, ça ils les ont mis. Il y a les deux suites sont en tournée. T'as un spin-off machin et tout. Lui, ce qu'il veut faire, c'est un truc, je pense, un petit peu plus large, mais pas forcément en utilisant, et je pense qu'il va faire un peu la même chose qu'avec les Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire essayer de sortir des personnages qui sortent un peu de l'ordinaire et de les amener dans un contexte qui est très, pas loufoque, mais décalé. Mmh. Et ça peut être décalé en mode sombre, Tu vois, genre, moi, ce que je disais, tu fais un film Black Adam en mode où tu le suis un peu en mode Logan, tu vois, une quête introspective sur un personnage justement qui se réveille, qui essaye de comprendre dans quel monde il vit, ce qui se passe autour de lui, un peu comme les problématiques de Man of Steel, mais ça colle plus à un personnage comme Black Adam qu'à Superman, tu vois, justement. Et c'est un truc comme ça que j'aurais aimé voir, tu vois, genre avec les décors que t'as dans ces pays-là, tu peux faire des trucs hyper stylés, des plans en hommage à Laurence d'Arabie ou je sais pas trop quoi, enfin, tu peux vraiment faire des trucs stylés. Et là, c'est blockbusterisé à l'excès, quoi. Enfin, c'est. On en est là, quoi.
Je trouve que DC s'en sortirait mieux si donner à un réalisateur ou une réalisatrice les commandes de tel ou tel personnage, parce que sinon, ils vont se retrouver avec 5 Batman. Il y a un moment où ils vont se retrouver. Là, on a Ben Affleck, Michael Keaton, on ne sait pas trop ce qu'ils font avec, on n'a pas rien d'officiel.
Des comics,
l'instant.
Pour le moment, c'est
voilà,
tout.
Pour l'instant,
pour le moment, il n'y a que des comics.
Voilà, y a Ben Affleck, il y a lui, il y a Pattinson. Imaginons que dans le Joker, il y a un Batman qui apparaisse. C'est possible aussi, bon, ça dépendra parce qu'il est gamin quand on le voit dans le premier Joker, ouais. Donc ça dépend du temps qui sera passé. C'est possible, on sait jamais.
Il a Arkham, hein, donc
ça peuvent... pourrait finir avec un Batman qui apparaît.
Tu peux avoir deux Batman différents quasiment en même temps au cinéma par le même studio, oui, clairement.
Et il faut aussi le Batman qui va être dans la nouvelle Justice League.
Ouais.
Ce Batman-là.
Donc trois, du coup, en tout. Ouais, c'est vrai que là, ça devient
de
tentaculaire.
Voilà, ça fait quand même. Et Dieu sait que c'est un peu un des gros soucis d'DC, c'est que. Ils savent que les gens sont là pour Batman. La grande majorité des gens qui lisent DC sont là pour Batman. On va pas se mentir.
Je crois chez Urban, enfin c'est Urban Comics du coup qui édite en France les comics Batman et DC plus généralement. Je crois que c'est 90% de leur vente, c'est du Batman, ou si c'est pas plus, tu vois. Enfin, genre, c'est vraiment.
Ouais, donc tu vois, les gens qui lisent DC lisent beaucoup Batman. C'est un peu le truc. Donc DC a décidé de tout mettre sur Batman, quoi. Que ce soit vraiment. La tête d'affiche de tous les trucs, il faut qu'il y ait Batman partout. Et aussi, ça fait que ça diminue un peu le personnage de Batman, parce que Batman est censé être un homme,
il est plus unique,
il est censé être humain, et en fait il y a toujours un coup d'avance sur tout le monde, il est toujours prêt pour se battre contre n'importe qui. C'est toujours lui qui sauve le jour, qui sauve le monde à la fin de chaque fois que j'ai lu un truc de Justice League, que j'ai regardé un film d'animation de Justice League, à chaque fois c'est toujours Batman
à la fin qui résout le truc, quoi.
Et dès que t'as besoin d'un méchant, bah tu vas Joker, et c'est éternellement ces deux-là. Même quand t'es tranquille à regarder The Batman, on te dit « Ah non, il y aura peut-être le Joker dans le prochain », et tu fais « Bah merde, putain, j'aurais largement préféré qu'il soit pas là ».
Oui, t'en avais clairement pas besoin dans le film.
Ah non, au contraire, ça fait perdre un peu du... Ça enlève le côté un peu unique du film, en fait, je trouve.
Et puis de toute façon, annoncer une suite a aussi beaucoup enlevé ce côté-là, parce que...
Ouais, et c'est dommage.
Ça a perdu sa superbe, ouais.
C'est dommage. Bref, retournons à Black Adam. Ah oui, donc il tue tous les méchants militaires au ralenti sur Painted Black.
Mm-hmm.
Donc voilà, déjà, ok, ça c'est The Rock qui voulait avoir l'air cool. et on voit Amanda Waller qui est là, oui. Sur Skype, comme d'habitude.
Des bons reshoots, d'ailleurs.
Ah, elle est toujours là. Et elle envoie la Justice Society avec Cyclone, Atom Smasher, Dr. Fate et Hawkman. Voilà. En dehors de Dr. Fate et Hawkman, je ne connaissais pas les deux autres. Je connais The Atom, mais c'est pas le même.
Atom Smasher, je pense que tu l'as déjà vu dans les comics. Hein. Ça me...
Ouais, son costume me dit quelque chose. Ouais.
Parce que même dans des gros events...
Il n'y a pas un mec, Monsieur Atom ou The Atom ou un truc comme ça, que lui, je connais par contre.
C'est son prédécesseur, je crois.
Ah, peut-être.
Okay. Et il y a d'ailleurs un caméo sur lui dans le film, je
crois.
Oui,
il jouait par Fonzie.
Ouais.
Donc Cyclone.
Ouais, moi qui était un personnage que j'avais déjà croisé dans les comics DC et que j'avais bien aimé, notamment dans...
Son pouvoir sert à rien. Elle fait des petits courants d'air.
En gros, elle contrôle le vent, donc elle est quand même très puissante. C'est un peu l'équivalent d'une Storm chez les X-Men.
Sauf que Storm, c'est qu'un seul de ses pouvoirs.
C'est qu'un seul de ses pouvoirs. Mais elle, en tout cas, a un de ses pouvoirs-là et elle est quand même très très puissante. Elle est censée...
Ça fait un peu courant d'air.
Elle est jeune. Ouais. Je pense que c'est ça.
Là, ça fait un peu pourquoi t'es là.
C'est censé être leur première mission aux jeunes, ouais. Femmes. Peut-être pas elles, je crois, mais
les
aux
deux,
mecs.
Ouais.
Tu sens qu'ils sont en rodage, quoi. Donc, ils sont pas encore à pleine capacité de leur pouvoir. Je pense que c'est ça qui explique un peu le truc.
Ouais, les deux. Enfin, toute cette équipe n'a rien à foutre dans ce film.
Non. Non, on est d'accord.
Mais oui. Je suis content de voir Pierce.
Ah, Pierce, il est cool. Pierce, franchement, c'est le meilleur truc du film.
Voilà, il a l'air de se faire plaisir.
Je suis pas très fan de la représentation de ses pouvoirs, mais par contre, le design du perso et même sa prestance et sa carrure fait que ça marche super bien avec ce personnage-là. C'est
Dr. Fate mériterait son propre film ou sa propre série.
Bah, 100 fois. Une série d'ailleurs, ouais, c'est une très bonne.
Une série,
Fais-moi une série Dr. Fate, James Gunn.
Ouais, ce serait cool, une série Dr. Fate. Plutôt que d'être un second rôle banal dans un film banal, quoi. Tu vois. Dommage.
Qui meurt en plus dans le film, donc c'est terminé, quoi.
Il y a un autre truc à m'expliquer. Pourquoi Amanda Waller, c'est elle qui envoie la Justice Society? Elle a combien de teams, Amanda Waller, au final?
Moi, le problème, c'est même pas combien elle a de teams. C'est à quel moment la Justice Society of America accepte de travailler avec Amanda Waller, qui travaille aussi avec...
Suicide Squad.
Avec la Suicide Squad. Il y a un truc, là, c'est... Et à aucun moment, c'est expliqué, quoi. Ils sont utilisés comme des mercenaires, comme le sont la Suicide Squad. C'est vraiment... Il n'y a même pas un peu de réflexion, genre, je sais pas, t'aurais pu entendre Alfred qui dit à Pierce Brosnan, on a besoin de toi, vas-y, tu vois, genre juste, tu fais un clin d'œil comme ça, tu fais un truc. Non, tu recales Amanda Waller pour montrer que t'es encore dans l'univers, c'était vraiment pour raccrocher les wagons, hein. C'est Black Adam qui voulait s'inscrire là-dedans parce qu'il avait un projet, Dwayne Johnson qui avait un projet à long terme, je pense. Hein. Cette volonté-là de s'inscrire autant dans la suite des films de Snyder, pour moi, c'est ça. Hein.
Elle est apparue en Suicide Squad. Dans The Suicide Squad, dans Peacemaker et maintenant dans Black Adam. Est-ce que c'est le personnage qui est le plus apparu, qui est le plus récurrent dans le DCEU?
C'est clairement possible, hein. En vrai.
Ah non, il y a peut-être. Non, Bruce Wayne, il se repointe pas pour l'instant dans d'autres endroits. On le voit dans Suicide Squad, c'est vrai. Si, ok, il y a lui aussi. Ouais, il y a lui. Et Hawkman qui se pointe et qui a un énorme manoir et qui a le même vaisseau que les X-Men.
Ah oui, non, mais ça, par contre, c'est.
Ils n'ont plus rien à foutre, les gens qui écrivent ces films. Hein,
ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont fait exprès de faire un hommage aux X-Men et à cet endroit-là, sachant que c'est la concurrence, donc c'est un peu bizarre? Ou est-ce que c'est tellement du je m'en foutisme que tu reprends exactement la même chose en te disant bon, ça passe?
Il est riche, Hawkman, dans les comics?
Oui, bien sûr qu'il est. Enfin, il est riche.
Moi, je connais Hawkgirl à cause de.
Elle aurait dû être dans le film, mais apparemment, elle a été. Supprimé du film pour des questions de droit, mais ça, on n'en sait pas plus. J'aurais adoré qu'il y ait Hawkgirl d'ailleurs dans le film, mais on a eu Hawkman. Mais il est presque ridicule en plus, je trouve. Hein, il est pas très.
Tu te rends compte qu'on a toujours pas eu de film Flash ou Green Lantern dans cet univers, mais on se tape Black Adam quand même, putain de bordel de merde!
Oui.
Non mais c'est vrai quoi, le sens des priorités dans la vie.
Pour la défense de Flash, il aurait dû sortir avant Black Adam, mais il n'est toujours pas sorti.
Il aurait dû déjà être sorti il y a 5 ans.
Bah, je sais, oui, mais il n'est toujours pas sorti. Donc,
ça aurait dû être un de leurs premiers films sur la liste.
Mais par contre, chez la CW, on en est à la 8e et dernière saison de The Flash.
C'est vrai. Et il y a Green Arrow qui revient.
Oh, putain.
Donc ouais, on dirait un autre film que celui qu'on m'a proposé au début. On est d'un seul coup dans un manoir X-Men, dans un vaisseau qui... il y en a un qui... comment il s'appelle, Dr. Fate, qui a des pouvoirs un peu vagues dans le film, hein, quand tu réfléchis, alors qu'il est quand même vachement plus puissant, hein, normalement. Si je me rappelle bien, dans Justice League...
C'est vraiment l'équivalent d'un Strange, à la différence près que lui détient ses pouvoirs d'un dieu égyptien, en fait. Enfin, d'un sorcier égyptien, même.
Mais là, il a le même truc miroir, un petit effet miroir là, qui se casse, tu sais, miroir qui se brise... C'est la même chose, quoi.
Oui, c'est clairement la même chose.
Ouais.
Ils sont pas trop embêtés sur essayer de creuser un peu les pouvoirs de Dr. Fate. Ils ont pas fait grand-chose. Ils l'ont bien rendu visuellement, mais ça s'arrête.
Donc, à Tornade qui envoie des barres de fer pour arrêter Black Adam, faudra m'expliquer quand même.
Ah non, mais dans les confrontations, parfois, c'est ridicule. Et puis, il y a une différence de puissance
il
qui est mal représentée, tu vois. Genre, c'est un peu fait à la va-vite, je trouve. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, parce que le film a commencé à être tourné, il y a eu le Covid, il a repris, machin, donc le film a dû être fait en plein de fois, et du coup, beaucoup de retravailler, mais tu sens encore une fois que c'est un film malade, enfin, genre, c'est pas très réfléchi quand même dans toute la construction du personnage et du film, et notamment les scènes d'action, enfin. À part la première, la limite, qui était dans la bande-annonce et qui avait déjà été pas mal montrée, j'ai pas une scène marquante en tête, parce que quand tu penses aux méchants de fin, il est là 5 minutes et puis c'est terminé, quoi. Enfin, c'est vraiment très très rapide. Hein.
Je bois plus, mais je vais pas forcément encourager les gens à le faire. Mais je pense qu'il y a des jeux à boire à faire dans ces.
Oui, tu peux faire des bingos assez facilement. Ouais.
Et là, par exemple, j'ai noté, c'est moi où on a le droit au perso qui cherche sa catchphrase dans tous les films de super-héros en ce moment.
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Donc à chaque fois qu'il fait sa catchphrase, tu peux aussi boire. c'était quoi ? C'était dans quoi là dernièrement qu'il y avait un personnage qui cherchait sa catchphrase ?
Oui. C'était dans She-Hulk. C'était dans Thor 4. Thor 4, c'est le personnage de Natalie Portman qui cherche sa catchphrase sur le film.
Voilà.
Oui, oui. Exact.
Bon, y a beaucoup de bagarres pour pas grand chose. Hein. Y a la couronne. À un moment, ils se mettent à jouer Power de Kanye West comme si on était en 2006. Enfin, je sais plus quelle année c'est sorti ça.
Ouais, ça date un peu.
Non, et puis c'est cliché à mort, quoi. Painted Black et ça, tu peux pas faire plus cliché comme musique, quoi. On dirait que c'est
Painted
mon daron qui les a choisis.
Painted Black est réarrangé et tu pourrais presque ne pas le remarquer si tu connais pas la chanson. Enfin,
ouais,
si
ils ont viré une bonne partie du chorus ou un truc comme
mais
ça.
Mais en soi, je trouve qu'elle passe mieux que celle de l'autre, là.
Ouais, mais disons que c'est des chansons... Moi, j'arrive pas à comprendre de nos jours, avec les moyens qu'on a, il devrait y avoir un mec qui est là pour trouver les chansons. Un peu comme dans les pubs. Les pubs te trouvent toujours des bonnes chansons.
Et remettent des chansons au goût du jour, d'ailleurs.
Et remettent des chansons au goût du jour. C'est pour ça que les pubs sont là. Mais par contre, au cinéma, on se tape la playlist de ton daron... moi j'aime bien le rap, écoute, j'écoute du Kanye West. Les Rolling Stones c'était quand même autre chose, hein, c'était pas la musique d'aujourd'hui. Voilà. T'as le droit à ça, quoi.
T'as quand même quelques films de super-héros qui travaillent la musique, hein. Faut pas non plus. Il y en a même beaucoup.
Ah, y a les Guns.
Bah, t'as les Guns, je trouve le dernier Batman qui travaille énormément la musique, et moi c'est des thèmes que je réécoute beaucoup.
Non, mais ça c'est pas la même chose.
Bah oui, mais t'as...
Moi, je te parle de choisir des chansons.
Oui, mais même, tu vois, la version de Something in the Way qui est dans le film, tu vois, genre,
elle
est cool aussi. Enfin, genre, il y a vraiment un travail qui est fait. Parce qu'en plus, la musique a
un sens.
Oui,
mais c'est pour ça que je
film.
Gueule sur Black Adam. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce genre de choses, quoi.
Et même dans Joker, que j'aime beaucoup moins, il y a un travail sur la musique qui est... Et même des musiques qui sont incrustées sont tellement vicieuses qu'elles sont aussi vicieuses que le film.
Et s'est ramassé sur la dernière à ce niveau-là.
Un petit peu. Voilà. Un petit peu, ouais. Là où son thème, enfin où ses ajouts musicaux dans Thor 3 étaient vachement plus intéressants et amenaient un truc, alors que là il a essayé de copier ce qu'il avait fait et ça marchait pas. Ouais.
Parlons un peu de The Rock dans le rôle. Il parle pas trop du film. Hein.
Non.
Sauf pour dire des petits one-liners.
Il a quelques petits one-liners, notamment avec le gamin, mais c'est vrai que en fait, à tel point que le truc qui est le plus ressorti du film, c'est le même où il parle pas, où tu vois juste sa tronche comme ça en accéléré là, quand il est en super vitesse. Enfin, c'est vraiment...
Ah, j'ai pas vu ça.
Bah, il y a eu un mème assez répandu où tu vois vraiment juste sa tête en gros zoom en super vitesse qui est assez ridicule. Et c'est même pas une phrase de lui qui a été retenue du film ou un truc. Enfin, est-ce que t'as une réplique de...
Non.
De lui qui t'est resté, tu vois. Enfin, non. Enfin, voilà, c'est...
Ah, il y a aussi des drôles de références. Genre le Bon, la Brute et le Truand. Mm. Genre d'un seul coup, t'as la musique du Bon, la Brute et le Truand et ils prennent la pause et tout. Ouais.
Mais
j'ai l'impression de regarder Mission Cléopâtre.
Moi, ça m'a un peu fait penser, dans sa manière de reprendre certains styles, à Aquaman, qui faisait un petit peu ça dans sa manière de...
Pas autant.
Non, pas autant, mais il y avait déjà un petit peu cette envie, tu sais, de piocher dans plein de trucs et de les incorporer un peu au forceps en mode... Vas-y, tu veux ton film de kaiju, tu vas voir ton film de kaiju. Tu veux ton film de machin, tu vas voir ton film.
Ouais, mais.
Et là, on te fout un petit peu de western, allez, vas-y.
Ouais, mais il y a différence entre un petit peu de western et te retaper la musique du trio, du Bon, la Brute et le Truand.
Ouais, mais en même temps, faut mettre des références que le public puisse
non,
avoir.
Tu fais une référence visuelle, western, tout le monde comprend, c'est filmé comme ça à la hanche, t'as la main qui bouge à côté du flingue.
Le nom des plans viennent de ces genres de films, donc forcément, voilà. Quoi, genre, c'est connu.
Je pense que The Rock était fan, et The Rock n'est pas subtil, et voilà. C'est quoi le message du film ?
Il est un peu ambigu, le message.
C'est travailler avec les colonisateurs pour protéger ton héritage.
Non, je sais pas si c'est ça quand même.
Ah, ils disent qu'il faut faire équipe avec les Blancs. Enfin, les Blancs. Les Américains et les Anglais, voilà. Pour être
ouais, mais... Enfin, tu vois, il y a quand même tout un truc en mode... Ils défient Waller à la fin, en mode... Enfin, moi, personne ne vient m'embêter, mais si j'ai envie d'aller ailleurs, je vais ailleurs, tu vois. Genre,
c'est ouais, c'est pour ça que Superman se pointe 2 secondes après.
Ouais, voilà.
Donc lui, en fait, c'était pas le héros. C'est son fils le héros, comme Shazam. Donc.
Ouais.
Et il s'est retrouvé avec les pouvoirs. Comment ?
Bah, il lui a transféré les pouvoirs, visiblement, en tant que Shazam, il peut le faire. Mais par contre,
bon à savoir.
Il a pas en lui filant les pouvoirs, il n'a pas transféré le fait de grandir quand...
Ah, ça aurait été marrant, tu vois, The Rock qui aurait encore plus grandi à chaque fois qu'il dit Shazam.
D'ailleurs, les plans de The Rock, quand il joue le...
Il est maigre, là. Ouais. Enfin, maigre.
C'est... Ça m'a rappelé un peu la vibe Le Roi Scorpion.
Ouais, c'était pas très beau.
Des petits pitiés de cette époque-là.
Donc ouais, dès qu'il dit Shazam, il devient The Rock, mais musclé. Quoi.
Oui, c'est ça.
Le méchant est transformé en méchant Mephisto.
Ça, faut qu'on en parle, parce qu'on est quand même dans un endroit où t'es censé plutôt être autour de la mythologie, du coup...
égyptienne, un peu. Ouais.
Bah, c'est pas vraiment égyptien.
Moyen-Orient.
Moyen-Oriental, tu vois. Et le truc, c'est que la représentation du méchant, elle est très biblique, enfin genre c'est vraiment
c'est le diable.
Un diable avec un pentacle sur le bide, enfin on en est vraiment là quoi, et ça m'a vachement surpris. En plus avec The Rock qui aime bien justement mettre en avant sa culture et notamment un peu de diversité quoi, là c'était assez surprenant. Mais je sais
peut-être
pas
que si... dans les comics il ressemble à ça, enfin, c'est peut-être un perso des
moi comics. Je me suis pas renseigné, j'avoue, j'ai pas pensé à ça, mais peut-être ouais.
C'est vrai que c'est complètement con hein.
Mais je trouve ça assez c'est aberrant.
On va dans les enfers à un moment et c'est que des gens avec des cornes et tout Donc on a vu Mephisto, ça y est.
Ouais. Ouais, parle pas parce qu'il y a encore des rumeurs sur Mephisto dans les prochains projets Marvel, donc
c'était pas Sacha Baron Cohen qui devait le jouer?
Ouais, il y a eu des rumeurs là-dessus.
Et où est Superman pendant tout ce temps?
Superman, il chill, il est en vacances là-haut.
Ouais, quand même.
Et journaliste, sauveur du monde, il peut bien prendre quelques jours de temps en temps quand même.
Ils ont la Justice Society, quoi. Ils ont la Justice League dans leur monde et ils envoient la Justice Society.
Et ils envoient les sous-fifres, il est un peu en vacances, je te l'ai dit. C'est vraiment, il est pas là, donc on envoie l'équipe.
Ouais, mais il est là à la fin du film pour nous rappeler que Superman existe, donc c'est un peu étrange.
D'ailleurs, est-ce que t'as remarqué un peu les différences sur la version du Superman dans le Cavill dans ce film?
Bah déjà, les couleurs sont bien plus vives.
Bien plus vives.
Et il y a la musique de John Williams.
Voilà. On est vraiment... Enfin, on n'est plus sur celui de Snyder, par contre, quoi. Il avait vraiment envie de le retravailler en plus... plus lumineux.
Dr. Fate qui se sacrifie.
Encore un personnage qui ne sera là que dans un seul film.
Et il libère Black Adam. Et là, il y a des squelettes et des zombies. Et on est à la fin. Enfin, c'est Suicide Squad. On est reparti. Il y a un laser dans le ciel et tout. Dans les merdes, putain de merde. Non, c'est pas possible. Non, mais on est en 2023, bordel de putain de bordel. Excusez-moi.
Mais la fin rappelle un peu celle de celui de James Gunn, d'ailleurs. Mais James Gunn avait un...
Ouais, mais c'est les étoiles de mer qui contrôlaient.
Oui,
les
mais
gens,
voilà, il y a un côté un peu marrant et ça va avec le ton du film. Là, c'est juste une armée lambda qui est défoncée en deux secondes et qui est même... Enfin, c'est vraiment ridicule à quel point...
Ouais, tu peux les tuer avec une barre de fer.
Oui, enfin, c'est vraiment...
Mais non, mais c'est ce que je veux dire par ces Suicide Squad, c'est que c'est tous les mêmes méchants qui se ressemblent tous et qui en gros sont juste là histoire de dire qu'il faut y avoir du combat. Et je pourrais dire qu'on peut mettre les comment ils s'appelaient déjà, les Chitauri dans Avengers.
Ouais, ouais.
On peut les mettre dans le tas aussi. Hein, peu, je veux dire, c'est un
la
problème.
Nameless Army.
Ultron. Enfin voilà quoi. C'est tous les mêmes quoi.
Bon, Ultron était quand même intéressant. En plus, il a créé un personnage gentil aussi
ouais,
derrière. Enfin, tu vois, il y a
dire,
quand même tout un truc.
Les gens contre qui ils se battaient, c'était tous les mêmes robots ou pas?
Oui.
Bon, voilà.
Oui.
C'est ça que je voulais dire.
Je confirme. Bah, même avec Thanos, hein, les espèces de bestioles qui arrivent dans Infinity War. Enfin, dans Endgame plutôt. Non, c'est Infinity War. Et qu'on revoit dans Endgame, les espèces de. Je sais plus comment on appelle ça.
Non, mais il y a un moment, il y a un laser dans le ciel, quoi.
Oui, bah, je sais qu'il y a un laser dans le ciel, je l'ai vu.
Non, mais c'est pas possible.
C'est fort à toi.
Trop de persos qui se dédoublent, ça m'a donné mal à la tête. Voilà. À la fin, tout le monde est copain. On est tous copains, ouais, c'est
ouais,
bon.
C'est...
Black Adam, t'as tué 150 personnes dans ce film. Mais c'était des méchants, ils avaient des mitraillettes.
Ouais.
Donc, on s'en fout hein, s'ils avaient des familles ou ce genre de trucs, hein, on pose pas de questions.
Il y a un truc que j'ai remarqué, je voulais reparler de ça, par rapport au personnage de Black Adam. Est-ce que tu trouves pas que des fois, il est un peu traité comme un Gaulois d'Astérix et Obélix? Genre, dans sa manière de balancer les mecs...
Ah oui, les balances, c'est
avec
vrai,
les petites vannes qu'il y a derrière, genre, tu sais, le mec qui parle avec un type en pleine rizière, là, quand il l'envoie, et genre, t'entends vraiment le petit à la fin, plouf.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment des cases de BD d'Astérix Obélix. Enfin,
c'est vrai que ça revient beaucoup.
Il y a un côté comique sur sa manière de, d'utiliser ses pouvoirs qui marche pas avec le reste du temps où il est hyper sérieux, hyper...
Il y a quand même un côté aussi poisson hors de l'eau, hein. Le côté Thor dans le premier Thor ou Captain America.
Oui, un peu de ça. Bah,
il faut lui apprendre, il détruit la télé.
La scène dans la chambre avec l'épée où il défonce tout, ouais. Sauf Batman.
Puis il peut, il...
Batman est sauvé par une planche de skate, quoi.
Tu vois, Batman, ils peuvent jamais être...
c'est le seul dans la scène, il défonce Flash, il défonce Superman, il défonce Wonder Woman. Mais Batman, la figure de Batman qu'on voit dans la chambre reste intacte alors que les posters dans tous les autres sens sont tous défoncés.
La seule fois où ils ont osé quelque chose avec Batman vraiment, au niveau de l'analyse du personnage, c'est Lego Batman.
Ouais. Ah bah c'est le film qui va le plus loin, ouais. Sur ce qu'est Batman.
Où on montre Batman être humain, mmh. Dans le film.
C'est vraiment le film qui, ouais. Va le plus loin sur le message de qui est Batman.
C'est dommage d'en arriver là. Que ce soit un film Lego qui te montre un Batman humain. Non, je trouve qu'au contraire, The Batman ramène ce côté-là.
Oui, bien sûr. Mais...
Moi, je parle plus de Batman quand il est dans l'univers de la Justice League, dans l'univers, mmh. De DC en général.
Ouais. L'univers étendu.
C'est vraiment lui le plus intelligent, le plus fort, le plus ceci, le plus,
ouais,
cela.
Le plus stratégique.
Ouais,
plus...
voilà. Ouais, alors, ouais. Qu'au final, c'est un peu dommage parce que... Mais on va pas se mentir, quand on le voit dans Justice League, quand on voit Ben Affleck se battre dans Justice League, il ne sert à rien, Batman. Donc presque
bah non, mais il ne sert jamais dans les scènes de combat.
Les scènes de combat, il ne sert à rien. Donc
il est bien trop insignifiant, ouais. Face aux menaces en général qu'il doit affronter. Quand tu prends un Starro, par exemple, que la Justice League doit affronter... Une étoile de mer géante, qu'est-ce que tu veux que Batman y fasse avec ses petits batarangs ? Qu'est-ce que tu veux ?
Non, il travaille avec des batarangs spéciaux.
Il utilise son cerveau, il n'est pas sur le champ de bataille ou très peu, et justement, il prépare le coup suivant, quoi.
Ouais, alors que surtout, c'était dans lequel. Je crois que c'est dans Batman v Superman, où quand ils se battent contre la Tortue Ninja, là, ils sont tous. Ils sont les deux sont en train de le taper. Tu crois qu'il y a, quand il se bat contre Kylian Mbappé, là, ils sont tous en train de le taper. Et tu vois juste Batman qui est à l'autre bout de la pièce, genre. Comme ça. Il transpire.
Ah oui, non, mais à chaque fois, il est au bout du rouleau. Hein.
Voilà, je préfère voir un Batman comme ça que celui que je vois dans les dessins animés d'ici de nos jours où
c'est clair.
Où il est vraiment trop fort, quoi. Mm-hmm. Je préfère encore voir le Ben Affleck, le gros Ben Affleck qui est en train de. Qui est à bout de souffle. Et voilà, Black Adam a tellement de choses à raconter qu'on parle de Batman. Comment on peut t'appeler ? Black Adam. C'est un héros, mais pas trop.
Héros, mais pas trop.
Post-credit, donc on a Waller qui parle à Black, ouais. Adam et lui interdit de quitter son pays. Et là, on a donc Henry Cavill qui arrive. Il a arrêté de jouer à Total War Warhammer pendant 2 minutes.
Pour faire un Skype, enregistrer son visage.
Enregistrer son visage. Ils l'ont mis digitalement sur le visage d'un autre, oh oui. Mec. Bon, qu'est-ce que ça pensait de Black Adam ?
Il est moins chiant que Morbius, je trouve, à regarder. Si, je trouve qu'il est moins chiant à regarder, mais il est tout aussi inintéressant. Mais je trouve qu'il est un peu plus stimulant visuellement et il y a justement un peu une débauche d'effets spéciaux qui fait que ça t'attire visuellement, ça te tient un peu en veille, vraiment, parce que c'est de la veille, hein, devant ce film, t'es pas actif, quoi, t'es vraiment... Et je pense plus de rire, de gêne ou un peu de malaise devant Black Adam que devant Morbius, qui est passé sur un encéphalogramme plat, mais tout le long, quoi, enfin genre... Aucune réaction devant Morbius. Et c'est en ça que je le trouve fascinant, c'est qu'il est tellement inintéressant qu'il provoque rien. Enfin, c'est...
Je crois que j'ai beaucoup plus regardé Morbius. Celui-là, je l'ai un peu plus... Il y a des moments où j'étais sur mon téléphone et je relève ma tête et je fais « Merde, je crois que j'ai raté toute une scène ». Enfin, je crois que j'ai eu plus de moments comme ça.
Mais Morbius, c'est plus court, plus
ouais, c'est
plus linéaire.
Ça,
hein,
il est plus court. Et surtout que j'ai enchaîné les deux, donc le deuxième au bout d'un moment.
Pour la Patrick, pour vous.
Vrai, c'est vraiment pour vous que je l'ai fait.
Et moi, j'ai vu Black Adam pour la deuxième fois et Morbius pour la troisième fois, du coup. Ouais.
Black Adam, j'ai trouvé ça oubliable. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant dedans. Que c'était une très mauvaise idée d'avoir décidé de faire Justice Society contre The Rock. C'est aussi une très mauvaise idée de demander à The Rock de jouer contre nature, même si c'est ce qu'il veut. Hein. C'est ce qu'il veut, être pris pour un acteur sérieux. Il veut être un acteur respectable.
No pain, no gain.
Voilà, il veut être comme ça et... Il veut plus qu'on le mêle au Fast and Furious et aux trucs dans ce genre. C'est un peu du gâchis de 260 millions de dollars, hein, j'ai envie de dire.
Bah, ça fait mal. Hein.
C'est plus cher qu'un gros MCU.
Ouais. Pour un rendu qui est tout aussi inégal, si ce n'est...
Non, mais achetez-vous un script. à ce prix-là.
Ben oui, mais regarde les mecs qui ont été engagés pour écrire le film.
Ouais, mais c'est ça, ils engagent des gros cons. Donc. Excusez-moi. Mais non, mais d'ici, je suis désolé, mais d'ici, il va falloir m'expliquer ce qu'ils font, parce que des fois, ils font un pas en avant et t'es là genre « Oh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire d'ici !» Et c'est 5 pas en arrière et tu fais « Ok !» Combien de fois dans le podcast, on a dû dire « Ah, je le sens bien pour d'ici cette fois !»
Non, mais c'est vrai. Regarde comme on a pu être emballé sur... je sais pas, un film comme... Enfin, moi, en tout cas, je l'étais pour Birds of Prey, pour
ouais,
une proposition
of...
différente.
The Suicide Squad.
Sur le moment, c'était un film.
On a bien aimé Peacemaker, par exemple. Et au final, tous les trucs qu'on a bien aimés, c'est des trucs de James Gunn. Donc, on ouais. est plutôt content de ce qui se passe. Mais en fait, j'attends de voir ce qu'il veut faire, vraiment. J'ai pas envie que tout ressemble à du James Gunn, tu vois.
Oui, je suis d'accord.
Ça me ferait chier que tout commence à ressembler à du James Gunn.
Mais je pense que James Gunn est assez intelligent pour savoir se mettre en retrait sur certains trucs de l'univers DC et le laisser faire par d'autres. C'est là où je pense qu'il a quand même vu son passage par Marvel et justement d'avoir été consulté en tant qu'auteur pour contribuer à un univers plus grand. Je pense que s'il se retrouve entre guillemets dans la chaise de Kevin Feige de DC, il saura faire ce truc. Enfin, j'ai l'impression qu'il a l'intelligence là-dessus. Enfin, c'est pas un mec qui est centré autour de lui-même, même si
un peu quand même.
Mais tu vois, artistiquement, non, en tout cas.
Faudra voir.
Autour de sa personne, oui, mais...
J'attends de voir. Moi, je suis optimiste parce que, voilà, c'est un gars... je sens que DC et James Gunn, ça peut bien fonctionner. Parce que, justement, lui, il peut se permettre de faire un humour un peu plus adulte avec DC.
Ouais, et puis, il vient quand même d'un truc plus destroy, plus sombre, plus...
Ça lui fait du bien de sortir de Guardians. Mais, en tout cas... on ne sait pas, de toute façon, dans 6 mois, ça pourrait être un autre mec qui a annoncé parce que ça s'est mal passé. Enfin, je sais pas, tu as l'impression de suivre un de ces mauvais clubs de foot qui changent d'entraîneur tous les 3 mois, tu vois.
Il y a un peu de ça. Hein,
c'est vraiment ça, quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible que ça fonctionne encore, quoi. Il reste à la 18e place pendant toute la saison. Et voilà, quoi. Alors que les autres... Alors que les Qataris.
Ça trace la première place.
Les Qataris et... de Kevin Feige. Sont...
les Qataris.
Parce que les Disney, c'est plus ou moins avoir l'argent des Qataris hein, de nos jours, je veux dire. Et le pouvoir que ça donne aussi, que ça implique. Ouais, donc que ce soit Morbius ou Black Adam, j'ai plus grand chose à ajouter dessus. Parce
il fallait les expérimenter.
Il fallait les faire, hein, voilà, ça s'est fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part que les regardez pas si vous les avez pas vus, que vous avez préféré nous écouter.
Oui, vous en passez.
Ouais, vous embêtez pas à les regarder, sérieusement. Entre nous, que ce soit l'un ou l'autre, c'est aussi chiant qu'un Green Lantern ou.
Ouais, voilà,
ça rentre dans cette catégorie-là. Oui, c'est chiant, tu t'ennuies devant, il y a rien de spécial, il y a pas de personnage qui t'intéresse. C'est deux acteurs qu'entre nous, faut aimer, quoi. À jeter. C'est quoi le prochain film Marvel ?
C'est Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui est une bande-annonce qui est sortie aujourd'hui, d'ailleurs.
J'ai vu qu'il y avait MODOK dedans.
Ouais, ça, je suis content.
Il a l'air moche.
Ouais. Toujours un peu moche, MODOK, dans tous les cas.
Il paraît que ça ressemble à Spy Kids.
Oui, depuis la première bande-annonce, ça ressemble un peu à Spy Kids, mais bon.
Donc le prochain, et le prochain d'ici ?
Et le prochain d'ici... The Flash ?
The Flash ?
Je sais pas.
Donc en mai ?
Attends, ils ont 4 films de prévu cette année. Hein.
En mai ou un truc comme ça ?
Je crois.
Tu veux que je sorte la liste ?
Ouais, sors la liste.
Ant-Man 3, Shazam 2, Guardians 3, Spider-Man Across the Spider-Verse.
Oui, tout à fait.
The Flash, The Marvels, Blue Beetle.
Oui, tout à fait aussi.
Craven, bon bah on fera une double feature.
Incroyable.
Blue Beetle, Craven. Ça sent la bonne double feature, ça. Ouais, ça va être pareil que cette année, voilà.
Oh, trop bien.
Aquaman.
Aquaman 2, oui, il y a Aquaman 2 aussi qui est censé sortir, tout à fait, ouais.
Mais en tout cas, ouais, la prochaine fois qu'on va se pointer, ce sera en février.
Scott Lang contre
Kang.
Kang le Conquérant.
Et niveau série, il y a peut-être des séries aussi.
Oui, bah, il y a beaucoup de séries chez Marvel,
ouais,
surtout.
Il y aura les séries.
Oui, oui, il y a plein de choses qui arrivent.
Si vous voulez écouter toutes les séries dont on a parlé l'année dernière, c'est sur le Patreon, patreon.com/plan-séquence.
La dernière, ça doit être She-Hulk.
On a fait She-Hulk, on a fait Miss Marvel. Mais on va les mettre en ligne. Hein, je vais les mettre en ligne, un de ces quatre. Moon Knight aussi, ouais. Donc pas mal de séries, hein, et en, en plus de tous les autres trucs que je propose régulièrement.
Oui.
Et ouais, si vous voulez me retrouver moi, bah, c'est à, du côté de la saga. En ce moment, on fait Le Seigneur des Anneaux. C'est super sympa. C'est autre chose que de parler de Morbius.
Tu m'étonnes. Je prends bien plus de plaisir à écouter vos épisodes qu'à regarder Morbius.
Merci, c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire.
Ouais, je sais que ça te touche.
Ouais, on aura Shazam en mars, Guardians en mai, on en a deux en juin. Ouais, on en a presque tous les mois, on a un film tous les mois. Donc il faudra voir aussi avec mon emploi du temps et tout. Et parce que la saga, ça prend beaucoup plus de ah, oui. boulot que...
Tu m'étonnes.
Comme il y a des invités, des trucs comme ça, c'est...
Et puis il y a du fond,
toi, surtout. T'habites à 10 minutes de chez moi, tu vois, je peux faire « Hey, tu peux venir ?» Ouais, j'arrive. C'est vachement plus simple. Oui, il y a du fond, c'est pas comme Marvel Initiative où c'est que de la forme. Tu vois,
c'est... Non, c'est pas que de la forme, mais disons rigole. Que les films sont un peu moins...
Oh, ça dépend lesquels.
Ça dépend lesquels, évidemment. Il y a des grands classiques, mais...
Il y a des gens qui te diront « Ouais, Winter Soldier !»
Moi, je suis capable de dire ça.
J'adore à chaque fois les gens qui sortent Winter Soldier.
Je défends tellement Ant-Man 1 et Ant-Man tout court dans le MCU que je suis heureux que ça soit lui qui fasse arriver le plus grand méchant, le nouveau grand méchant, dans son propre film, alors qu'à chaque fois, il était... il arrivait après la guerre, quoi, à tel point que... Dans...
Et lui, il a fait le chemin inverse de Thor. C'est que Thor, ça commençait pas comme une comédie et ça finissait en comédie. Mmh. Avec les années, ça devenait de plus en plus une comédie. Et lui, c'est l'inverse. Avec le temps, ça devient dramatique. À voir ce que ça peut donner. Ouais, à voir.
Peyton Reed, on croit en toi. Ou pas.
Ouais, non.
pas trop.
Moi, je crois en personne.
Oui.
À part Zinedine Zidane.
Ah, ça.
Voilà, le message est passé. À la prochaine, tout le monde.
Salut, salut. Salut. Yes. Put my best of best, put my 10 at 10, or put my spend to spend. Have sex, excel. Automatically fully casual. Fala 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 fala. Getting on it, turn the best show. Fala 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 fala. Turning touch it, turn the hair show. Fala 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 fala. I phone it, cut it, phone it casual. Excel. Or put my hands to yes. Put my best of best, put my 10 at 10, or put my spend to spend. Have sex. Excel, put my hands a yes. Put my best of best, put my 10 a 10. Or put my spend a spend. Have sex, excel.